Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer cette séance. Monsieur Benoît Sanchez, Monsieur Denis Dussargues, Monsieur François Morand, Monsieur Guy Soulavie, Monsieur Rodolphe Pérez, Monsieur Christian Perron, Monsieur Jean-Louis Grappin, Madame Marie-Claude Bompard, Monsieur Claude Raoux, Madame Marie Calero, Madame Marie-France Nercessian, Monsieur Pierre-Michel est excusé et a donné pouvoir à Madame Bompard, Madame Christine Fournier, Monsieur Jean-Marie Vasse, Madame Jacqueline Morel est excusée et a donné pouvoir à Madame Fournier, Monsieur Claude Besnard, Madame Thérèse Plan, Monsieur Pierre Massard, Madame Laurence Desfonds est excusée et a donné pouvoir à Monsieur Sanchez, Monsieur Serge Fiori, Madame Sophie Chabanis, Monsieur Hervé Flogère est excusé à donner pouvoir à Madame Chabanis, Madame Estelle Amaya Rios est excusée à donner pouvoir à Monsieur Grappin, Monsieur Jean-Claude André, Madame Marie-André Altier, Monsieur Claude Raffinesque, Madame Virginie Vicente est excusée à donner pouvoir à Madame Altier, Monsieur Serge Basté est excusé à donner pouvoir à Madame Ricard, Madame Nicole Chassagnard, Madame Cathy Ricard. Bien, l'ordre du jour est consacré globalement au débat d'orientation budgétaire. Les premières questions concernent les procès vers, d'abord la désignation d'un secrétaire de séance. Sur le rapport numéro 1, conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée communautaire de désigner son secrétaire de séance. Il est ainsi proposé M. Benoît Sanchez. Y a-t-il des abstentions? La Ligue du Sud. Docteur André. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Pierre Massard. Question numéro 2. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2018. Y a-t-il des questions? Monsieur Morand. Votre micro. Parlez plus fort ou... Appuyez.
Bon, ben je recommence, voilà.
Allez-y.
Voilà, je rappelais que j'ai envoyé plusieurs courriers, dont certains depuis plus de 6 mois. Il y a une obligation légale dans une administration à répondre sous un délai de 2 mois. Tout un citoyen peut demander des informations et a droit à une réponse. Donc, certains courriers datent de 6 mois. Ils concernent la ZAND, ils concernent aussi les ordures ménagères, leur gestion, ils concernent aussi les nouvelles déchetteries mises en place, la taxe des enlèvements ménagères qui va découler de tous ces investissements. J'ai toujours pas reçu de réponse. Voilà.
Bien. Sur le procès verbal, vous avez profité de cette question pour parler de ça, alors que il n'y avait pas de sujet sur ce procès verbal, mais je vais vous répondre. D'abord, sur la question des domaines et de la ZAND, nous avons eu, je vous l'ai déjà dit, un courrier de l'inspecteur des finances publiques qui nous a demandé des documents que vous lui avez demandé vous-même. Et donc, nous lui avons adressé la totalité des documents qu'il souhaitait, puisque vous aviez demandé à la fois les actes notariés, mais surtout l'avis des domaines qui a été utile dans l'appréciation de l'évaluation de la valeur des terrains. Donc ça a été transmis. Et comme il nous avait écrit que c'était à votre demande et qu'il vous devait vous répondre, je croyais qu'il l'avait fait. Donc je suis pas là-dessus. Sur la question, sur les autres sujets, ça m'étonne. C'était quoi? Sur la déchetterie et... Bon, sur les ordures ménagères, je pense que vous avez eu la réponse que vous souhaitez en comité déchets, puisque vous y siégez et vous avez l'occasion de poser toutes les questions possibles. Sur la question de la déchetterie, c'est aujourd'hui la commission de M. Perron qui la préside aussi. Et donc, sur ces sujets-là, je crois que vous avez eu la réponse. Et d'ailleurs, si vous nous aviez posé la question avant de faire et une pétition et beaucoup de bruit dans la presse, je pense que vous auriez eu la réponse à la fermeture ou non de la déchetterie de Bolène. Ça vous aurait évité de consommer beaucoup d'encre pour rien. Sur la question du procès-verbal aujourd'hui, sur le vote, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets aux voix le procès-verbal de la séance du 18 décembre. Qui s'abstient ? la Ligue du Sud, docteur André, qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec M. Pierre Massard. La question numéro 3, c'est le procès-verbal de la séance du 5 février 2019. Y a-t-il des questions ? Madame Ricard.
Oui, merci Président. Ce n'est pas une question, c'est simplement Serge qui demande à ce que vous corrigiez.
Oui.
À la page 5, où il est écrit, il ajoute savoir que l'agri-machine est un peu à la mode. Ce n'est pas l'agri-bashing. C'est l'agri-bashing.
Oui, je n'aime pas. Oui, je vais... L'agri-bashing, oui, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions ? Je soumets aux voix qui s'abstient. La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec M. Massard. Question numéro 4, c'est la modification du règlement intérieur. Alors, justement, ça tombe après ces questions de procès-verbaux parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous demande les procès-verbaux en version dématérialisée, etc. Donc, ce règlement intérieur vient préciser... au vu de la délibération du 30 septembre 2014, approuvant le règlement intérieur du Conseil communautaire, conformément aux dispositions du Code général des collectivités, considérant la volonté de la collectivité de simplifier la restitution des débats lors des séances du Conseil communautaire et de rendre systématiquement accessible en ligne l'ensemble des enregistrements audio des séances du Conseil communautaire, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le projet de modification du règlement intérieur du Conseil communautaire et de m'autoriser à signer l'ensemble des actes s'y rapportant. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Madame Ricard.
Oui, ça veut dire quoi, simplifier la restitution des débats ?
Ça veut dire que l'article 20 est modifié comme suit, pour enregistrer des débats et faire en sorte qu'il y ait un rendu en ligne sur le site de la communauté de communes du débat audio qui était pour le moment que papier. Et l'article 28 vient préciser que le procès-verbal vaudra compte-rendu. Cela évitera toutes les polémiques qu'on peut avoir sur la restitution des débats de la version audio à la version papier, puisqu'aujourd'hui, ce procès-verbal que tout le monde pourra écouter sera celui qui vaudra à la fois comme procès-verbal de compte-rendu et procès-verbal audio de la séance. Voilà.
Mais ça sera accessible au public ou aux élus ?
C'est accessible à l'ensemble des citoyens sur le site internet de la ccrlp.fr. Chacun pourra y aller, cliquer pour entendre les débats et avoir la restitution des débats, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et d'accord. Comme je m'y étais engagé la dernière fois, je le fais, mais pour le faire, la préfecture nous a demandé de modifier notre règlement intérieur. Et c'est pourquoi nous devons le modifier.
Mais la restitution papier restera la même.
La restitution papier n'existera plus. Ça sera un procès-verbal qui sera accessible sur le site internet. C'est-à-dire, elle existera, mais elle ne sera pas votée comme on le fait aujourd'hui, de voter à chaque fois l'ensemble des procès-verbaux. Aujourd'hui, vous aurez le procès-verbal en ligne, et ça vous évitera d'ailleurs, à nombre de reprises, de demander les enregistrements audio et de les avoir directement sur le site internet. Comme ça se fait dans d'autres collectivités.
Hein. Oui, oui. Non, mais c'est... On pourrait aussi être originaux et faire quelque chose que les autres ne font pas. Moi, je trouve que c'est un peu dommage quand même que le support écrit, parce que imaginez les citoyens, quand, bon alors, si nous, élus, on veut vérifier un truc qui s'est dit, savoir si ça a bien été rapporté, tout, je trouve ça très utile de pouvoir accéder à l'enregistrement. Après... Je vois mal les citoyens aller écouter 3 ou 4 heures de débat pour avoir une idée de ce qu'on a pu se dire, quoi. Moi, je ne trouve pas que c'est une avancée, ça. Voilà. En ce moment, on entend beaucoup les citoyens dire qu'ils veulent beaucoup de transparence, beaucoup de proximité. Et je pense que le support papier, ben, c'est quelque chose qui a son utilité. Et qui vaut ce qu'il vaut, même s'il n'est pas parfait, je l'admets. Mais ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire que c'est un témoignage qui me paraît très utile. Et donc, nous voterons contre cette nouvelle façon de rendre compte des débats.
J'entends. Y a-t-il d'autres questions ? Je soumets aux voix qui s'abstient, qui est contre. Le docteur André est contre, Madame Ricard et Monsieur Basté. Donc, Madame Ricard pour Monsieur Basté.
Dossier adopté à la majorité avec les voix de la Ligue du Sud et M. Massard. Question numéro 5. Il s'agit d'une convention de prestation de services d'accueil temporaire relais d'assistante maternelle avec la MSA. Monsieur Soulavi, c'est à vous.
Merci, Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Considérant que le comité de communes Rhône-Alès-Provence a initié à partir du 1er janvier 2018 la création du service commun relatif au relais d'assistante maternelle, considérant que la MSA de Vaucluse porte une politique publique de soutien technique et financier des relais d'assistante maternelle agréés par la Caisse d'allocation familiale et s'engage à participer financièrement aux frais de fonctionnement par l'octroi d'une prestation de service calculée par rapport au taux départemental de population agricole de 5%, considérant que les objectifs généraux assignés à la MSA sont renforcer le développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles et de tous les territoires, contribuer à la structuration d'une offre enfance-jeunesse adaptée aux besoins des familles, soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants et favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur leur territoire, considérant également que les objectifs spécifiques assignés au RAM, accueillir, écouter, échanger, informer les parents sur les modes de garde, les aides, les démarches administratives, la liste des assistantes agréées, accueillir, écouter, échanger, informer les assistantes maternelles, statut, droits, obligations, aide au fonctionnement autonome dans un groupe d'assistantes maternelles, proposer différentes activités pour que les assistantes maternelles puissent rompre leur isolement, mutualiser leur savoir et éveiller les enfants, favorisant ainsi la fréquentation des ateliers mis en place et participer au repérage des besoins et des pratiques locales. Ils ont proposé au conseil communautaire d'approuver le projet de convention prestation service accueil temporaire relais assistante maternelle intercommunale mutualité sociale agricole de Vaucluse pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et autoriser le président à signer l'ensemble des actes.
Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, Madame Ricard, je vous en prie.
Oui. Président, on va voter pour, mais Serge et moi, mais en même temps, on voudrait redire ici notre regret de voir un service à deux vitesses, c'est-à-dire que ce ne soit pas mutualisé sur l'ensemble du territoire intercommunal. Et ma remarque vaudra pour les deux points, que ça concerne là la MSA, mais ça concernera le point suivant aussi par rapport à la CAF. On reste surpris de voir que des institutions comme la CAF ou la MSA laissent faire ce genre de choses et ne nous contraignent pas à avancer différemment. Mais nous voterons pour ne pas priver les communes et partager ce sentiment effectivement d'un service utile, mais avec un grand regret de voir deux vitesses sur le territoire.
Merci. Je partage votre avis, madame. Y a-t-il d'autres questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Alors, abstention de la Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier adopté à la majorité avec le docteur André et monsieur Massard. Question suivante, il s'agit d'un conventionnement, cette fois, avec la CAF, monsieur Soulavi.
Matériel, merci, et mobilier pour les trois accueils jeunes intercommunaux, considérant également que les administrations de la CAF, de la Commission Action Sociale du 21 novembre 2018 ont voté une aide financière sur leur fonds propre de 10 000 euros, moitié sous la forme de prêt et moitié sous la forme de subvention d'investissement destinée à l'achat d'équipements matériels et mobiliers pour les trois accueils de jeunes intercommunaux. Considère également qu'à ce titre et dans le cadre de leur politique enfance-jeunesse, les caisses d'allocation familiale soutiennent activement la promotion et le développement des équipements et services d'accueil de jeunes en apportant notamment un soutien technique et financier. Et considérant enfin les besoins d'équipements informatiques et mobiliers des trois accueils jeunes intercommunaux regroupant les communes de Lapalu, Mondragon et Mornas à la Motte-du-Rhône, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le projet de convention d'autorisation de ce programme CCRLP-CAF relative à une aide financière pour l'achat d'équipements matériels et mobiliers pour les trois accueils de jeunes intercommunaux et d'autoriser le président à signer toutes les pièces.
Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier adopté à la majorité avec le docteur André et M. Massard. Question numéro 7. Il s'agit d'une subvention au comité des fêtes de Mondragon. Vu l'avis de la commission finances de février, considérant la demande de subvention du comité des fêtes de Mondragon dans le cadre de l'organisation de la 48e fête du Drac, considérant que la fête du Drac, de par sa notoriété et sa fréquentation, participe à la mise en valeur et à la promotion du territoire, il est proposé au conseil communautaire d'attribuer une subvention de 6 000 euros à l'association du comité des fêtes de Mondragon pour l'organisation de la 48e fête du Drac qui aura lieu les 10 et 11 mai prochains, et de m'autoriser à signer l'ensemble des actes et documents s'y rapportant. Y a-t-il des questions ? Madame Ricard.
Oui, Président, encore une fois, on va voter pour, parce qu'on est très content que Mondragon puisse profiter d'aide financière pour organiser la fête du Drac. En même temps, j'ai entendu à plusieurs reprises que l'intercommunalité ne pouvait pas subventionner directement des associations. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre. Voilà. Alors, vous allez peut-être me répondre que ça rentre, comme il est écrit, dans les compétences développement économique et tourisme. Mais je connais d'autres associations qui mènent des actions dans ce sens et auxquelles on a répondu que ce n'était pas possible d'apporter une subvention. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus ?
Alors,
Vous me parlez des critères de choix.
Je vois ce que vous êtes en train de dire. Ça concerne votre commune et une association qui, sûrement,
pas que,
qui vous est chère. Mais aujourd'hui, il y a deux critères. Le premier, c'est qu'on doit accompagner une association qui s'inscrit dans un champ de compétences. C'est le cas de l'association dont vous parlez et qui n'a pas reçu la subvention, donc le tourisme. La deuxième, c'est dès lors qu'une association rentre dans un partenariat comme le contrat de ville de Bolène, où on subventionne des associations alors qu'on n'en aurait pas le droit à titre direct, mais on le fait au titre d'un contrat de ville pour lequel nous sommes partenaires, où il y a un fléchage, un guichet, etc. En ce qui concerne l'association que vous avez sûrement en mémoire, parce que je me souviens très bien de votre demande, le libellé de l'association en préfecture faisait apparaître que c'était une association politique.
Ça a été corrigé depuis, c'était une grosse erreur.
Et donc, nous ne finançons pas les associations politiques.
Je comprends.
Et je veux bien revoir le subventionnement dès lors que cette erreur aura été ou est corrigée. Mais j'entends là-dessus, on ne fait ni la promotion, ni la publicité, ni parce qu'il y a des associations qui voudraient qu'on expose sur les affichettes en bas, etc. On ne le fait pas et on a un cadre qui est très clair. Toutes les associations qui sont déclarées officiellement comme politique à la préfecture. C'était le cas quand vous m'avez présenté la demande de subvention. Donc je suis prêt.
Depuis, les choses ont changé.
Très bien, je suis prêt à le revoir. Par ailleurs, puisque vous parlez de la fête du Drac, il y a des élus qui sont sûrement plus au fait que moi, puisque il y a le maire de Mondragon parmi nous et il y a des élus mondragonais, mais je crois que c'est une fête qui n'a pas de qui s'inscrit pleinement dans la question de la compétence tourisme, qui avoisine les 10 000 personnes à chaque fois qu'elle a lieu. Le taux de subventionnement sur 38 550 euros avoisine les 15-16%, donc il est raisonnable. Et surtout, l'association a trouvé des financements à hauteur de plus de 50% du projet via la région, le département et puis d'autres fonds qui peuvent avoir au titre. Et c'est à ce titre-là que ça a été présenté en conseil d'exploitation de l'Office de tourisme et que c'est présenté ce soir en séance du conseil. Donc je suis prêt à revoir la demande de subvention bien volontiers, mais ce n'était pas possible au moment du dépôt. Y a-t-il d'autres interventions ? Je soumets aux voix ce rapport numéro 7 qui s'abstient, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 8, il s'agit d'une convention de financement et de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage avec le département de Vaucluse. Monsieur Grappin.
Oui, bonsoir à tous. Donc on est sur une convention qui se rapporte à des aménagements de voirie, donc qui concerne deux maîtres d'ouvrage. Donc en premier lieu, le département de Vaucluse, pour ce qui relève de l'aménagement de la véloroute Via Rona, qui emprunte une partie de la route départementale 44, donc celle qui fait la liaison entre la Motte-du-Rhône et Mondragon, et d'autre part, des aménagements de voies qui étaient communales, qui ont été transférées à l'Interco dans le cadre de du transfert de la compétence voirie, lesquelles voies viennent se raccorder sur ces RD 44 avec des carrefours dangereux en termes d'accès de desserte et notamment au regard du passage de cycle. Donc ce qu'il est proposé au travers de cette convention et au regard de, des coûts d'aménagement des 10 carrefours que j'ai évoqué avec vous, le montant de l'aménagement tel qu'il est été chiffré est évalué à 289 000 euros hors taxe. Il est proposé dans le cadre de la convention que la communauté de communes transfère ponctuellement sa maîtrise d'ouvrage au département de Vaucluse et que dans le cadre de cette opération, l'intercommunalité finance, participe à hauteur de 45%, soit 130 050 euros avec une clause qui vient de se rajouter, c'est que si toutefois le montant prévisionnel de 289 000 euros était dépassé, la participation de CSRLP ne serait pas revue et bien figée et fixée à 130 050 euros. Donc il vous est proposé d'approuver cette convention qui vise à la fois de valider le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage et de valider le plan de financement et la participation maximale de la communauté de communes CSRLP.
Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 9. Il s'agit de la cotisation au pays Une Autre Provence. Monsieur Grappin.
Donc il vous est proposé de délibérer pour valider l'adhésion de notre communauté de communes au pays Une Autre Provence au titre de l'année 2019 et donc sur la base d'une cotisation annuelle qui est fixée à un montant de, enfin, sur la base du nombre d'habitants à 40 centimes par habitant, soit 9 800,80 €, donc d'adhérer au pays Une Autre Provence moyennant cette cotisation, en rappelant que le pays Une Autre Provence est notre porte d'entrée pour bénéficier d'un certain nombre d'aides auprès de la région via le dispositif CRET, le contrat régional d'équilibre territorial.
Bien, merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Monsieur Massard.
Lors de la commission de finances, nous avions demandé à M. Grappin de nous fournir les conventions, les subventions qui ont été déjà demandées dans le cadre de cette de ces aides. Voilà.
D'accord. Donc ces subventions, on va vous bien sûr vous les faire passer puisque c'est totalement public. Il y a deux versions, parce qu'il y a le CRET 1 et le CRET 2, dont le contrat régional d'équilibre territorial 1 dans sa première version, qui a accompagné pas mal de sujets et qui nous a permis d'obtenir 360 000 euros de subventions dans sa première version. La maîtrise d'œuvre de l'entrée sud Sactar, l'étude de réhabilitation des friches de la croisière, la maîtrise d'œuvre de la seconde salle de cinéma, l'étude de faisabilité de halles couvertes, le sentier de randonnée phase 1, phase 2. Et puis sur la version CRET 2, de subventions sollicitées à hauteur de 1 100 000 pour la maison du terroir à hauteur de 430 000. Et pour la déchetterie, à la hauteur de 650 000 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, on paye une cotisation de 9 800 euros, mais on a un retour qui est largement beaucoup plus intéressant. Et c'était une condition préalable à ce qu'on puisse bénéficier du contrat régional, dont le président Christian Estrosi avait annoncé la fin de son format, mais où le président Muselier, qui l'a remplacé, a souhaité apporter des correctifs, mais a voulu l'étendre. Donc c'est plutôt une bonne chose, et comme on n'est pas plus bête qu'ailleurs, on monte des dossiers pour avoir des subventions.
Président.
Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 10. Il s'agit donc d'un préambule au débat d'orientation budgétaire 2019 sur la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la loi qui vient préciser cette disposition. C'est la loi d'août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination, cette loi dispose que les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'employeur est ainsi tenu de veiller à l'égalité professionnelle et salariale, de rechercher la mixité dans les métiers et les postes d'encadrement. Il est proposé donc au Conseil de prendre acte de la présentation du rapport de la communauté de communes dont vous avez eu connaissance, et peut-être dire quelques mots avant d'ouvrir le débat. Vous dire que nous, la mixité, on l'a pas forcément, mais pour les raisons que l'on connaît, c'est-à-dire sur les métiers que l'on exerce, puisque la restauration collective est plus un métier féminin que masculin, et ce qui fait qu'on a des ratios aujourd'hui où on a 63% de femmes et 37% d'hommes. Voilà.
Sinon, nous avons un taux de 90% de fonctionnaires, puisque vous savez qu'aujourd'hui, c'est venu un peu se durcir en disant qu'il fallait prioriser les fonctionnaires sur d'autres cadres d'emploi. Et l'ensemble, dans le service technique, vous voyez énormément de femmes pour les raisons que je vous évoquais, c'est-à-dire le transfert de l'entretien des équipements et puis la restauration collective qui vient aujourd'hui souligner ce point de féminisation du personnel de la communauté de communes. Voilà, avez-vous des questions, chers collègues ? Monsieur Morin.
Voilà, si on veut mettre en place la mixité, la première des choses, c'est de donner l'exemple. Et je remarque que parmi les vice-présidents, dans le bureau, il n'y a aucune femme.
Bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Morin, mais au moment de l'élection des vice-présidents, il n'y avait aucune candidate, hormis madame Ricard. Et si vous faisiez allusion au maire de Bolène, elle n'était pas candidate à la vice-présidence de cette collectivité. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ?
J'aurais fait la remarque, monsieur Morin, parce que ça m'amusait un petit peu.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous devons prendre acte de cette question, de ce rapport. La question suivante est donc le débat d'orientation budgétaire 2019. Conformément à l'article 23.12 du CGCT, le budget de la communauté de communes est proposé par le président et voté par le conseil communautaire. Un débat a lieu sur les orientations générales du budget de l'exercice. Et je peux d'ores et déjà vous donner la date. Le 4 avril aura lieu le vote, le 9, pardon. Je confonds avec d'autres instances, le 9 avril aura lieu le vote du budget 2019. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée de débattre sur les orientations budgétaires et d'abord la présentation par M. Grappin.
Donc, je vais m'appuyer sur le rapport dont vous avez tous été destinataires et vous permettrez de passer rapidement sur le contexte macroéconomique qui est sans doute plutôt favorable en 2019 et les années suivantes que ce qu'il avait été. S'il y a des questions, je répondrai bien volontiers, mais de pouvoir passer directement à ce qui nous intéresse au plus près, à savoir un survol de la situation et une approche du compte administratif 2018, même si les derniers comptes ne sont pas arrêtés, et donc les orientations sur l'exercice 2019. Quelques rappels des évolutions relatives au contexte juridique de ces CRLP sur l'année 2018. Donc, pour rappeler qu'au 1er janvier 2018, a été transférée la compétence GEMAPI et les missions complémentaires non GEMAPI qui y sont associées, et que la CLEC du 20 décembre 2018 avait défini la charge nette transférée pour la communauté de communes, en rappelant que la CLEC avait validé le fait de ne pas prendre en compte les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement nouvelles ou qui seraient à venir, mais qui avait défini donc cette charge nette transférée à la communauté de communes pour un montant de 610 000 euros. Sur la base de la délibération du 13 mars 2018 de nos conseils communautaires, a été transféré donc les trois volets, le triptyque construction, entretien et fonctionnement des équipements scolaires, donc à compter du 9 juillet 2018 et à compter du 1er septembre 2018, tout ce qui concerne la construction, entretien des fonctionnements des équipements culturels et sportifs qui ont été déclarés d'intérêt communautaire sur la base des propositions de chaque commune, et de la même façon sur la construction, la création, l'aménagement de la voirie, là aussi sur la base des sollicitations de chacun des maires. La CLEC n'a pas encore travaillé et va commencer à venir travailler, je dirais, sur sa base collégiale, mais sur la base des premiers échanges qu'on a pu avoir entre les différentes communes et la communauté de communes. Au prorata temporis de l'exercice 2018, cette charge nette transférée en fonctionnement se rapportant à ce triptyque représente 970 000 euros, donc une charge supplémentaire au prorata sur l'exercice 2018, mais une charge que la communauté de communes devra supporter en plein pour l'ensemble de l'exercice 2019. Dernier élément en termes de transfert de compétences, le transfert qui avait été acté, le 18 décembre dernier sur la ZAC Pan-Europarc, mais donc au regard de la date de cette délibération, n'a pas eu d'incidence sur l'exercice 2018, mais qui en aura bien évidemment sur l'exercice 2019, notamment au travers de l'acte qui a été pris sur l'acquisition de terrain pour un montant de 1,8 million. Rappelez que sur la base des décisions qui avaient été prises en 2017, pour à la fois moderniser, créer des nouveaux équipements, à une époque où le transfert de compétences n'était pas validé le choix qui avait été fait, la décision qui avait été faite en mars 2017 d'engager une enveloppe de 10 millions de fonds de concours. Bien évidemment, sur la base des, enfin, il y avait une trentaine d'actions qui avaient été initiées sur l'exercice 2017. Sur l'exercice 2018, c'est 27 actions qui ont été initiées. Vous en avez la liste dans la note de synthèse, pour un montant de fonds de concours qui a été attribué pour un peu plus de 4,5 millions d'euros. Rappeler, on en a sous la vie, l'a évoqué rapidement, et Madame Ricard l'a évoqué rapidement aussi, hein, cet engagement qu'a fait la communauté de communes de s'engager dans un processus de mutualisation, au départ sur des aspects techniques, je pense notamment au focardage, au balayage des voiries, et puis dans la foulée sur les services communs, ce qu'on appelle le RESIN, un réseau intercommunal, et qui touche des domaines qui sont au plus près de notre population, et sous toutes ses formes, au travers du relais d'assistante maternelle, la lecture publique, les enseignements artistiques et les actions pour la jeunesse. Donc on est bien dans un dispositif dans lequel c'est bien de la mutualisation, donc ce n'est pas un transfert de compétences, où chaque commune vient payer les prestations réalisées sans que ça ne vienne impacter les attributions de compensation. Et donc rappeler que sur l'exercice 2018, on a été mis en œuvre deux budgets annexes nouveaux, celui qui concerne l'aménagement de la zone de la croisière et la gestion du pôle médical. J'enchaînerai sur, au travers d'une première approche des comptes 2018, donc on regardera de manière plus détaillée, telle que l'a indiqué Monsieur le Président, à la faveur du vote du compte administratif le 9 avril prochain. Au travers d'une première approche, s'agissant de la section de fonctionnement, on a un résultat de l'exercice 2018 de 1 300 000 euros, donc sensiblement similaire au résultat de l'exercice 2017, ce qui aboutit à un résultat de clôture sur la section de fonctionnement de 15 millions, un peu plus de 15 millions, et donc un résultat de clôture global, les deux sections confondues, de 11 802 000. S'agissant de l'évolution des dépenses de fonctionnement, hein, si on s'intéresse à une période 2014-2018, et je dirais plutôt regarder, faire un zoom plutôt sur les comparatifs 2017-2018, puisque c'est les deux années qui sont marquées par des transferts de compétences importants, en 2018 par rapport à 2017, on a une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement d'un peu plus d'un million d'euros. Je vous laisse mettre en perspective au regard de ce que j'évoquais précédemment, hein, même si aujourd'hui le chiffre n'est pas arrêté, mais la charge nette que la CLEC sera amenée à examiner au prorata temporis de l'année 2018, au travers des compétences du triptyque que j'évoquais, équipement scolaire, autres bâtiments, voirie, de plus 970 000. Donc, ce qui signifie que, en conclusion, qu'une grande part, sinon la quasi-totalité de l'évolution des dépenses de fonctionnement entre 2018 et 2017 est liée à l'augmentation, enfin, le transfert de ses compétences et les dépenses qu'elle induit pour la communauté de communes. Les autres dépenses, et je pense notamment au reversement qui est fait vers les communes, n'a pas connu d'évolution notable en 2018 par rapport à 2017, si ce n'est le recalcul de l'attribution de compensation qui était lié au transfert de la compétence GEMAPI. Et donc sur 2018, c'est un peu plus de 17 millions d'euros qui ont été reversés aux communes, qui constitue donc la part la plus importante de nos dépenses réelles de fonctionnement. S'agissant de l'évolution des recettes de fonctionnement, elles sont stables sur cette période 2017-2018 en termes de montant, pour un montant qui évolue de peu plus de 29 millions, un peu plus de 30 millions. Donc on est sur quelque chose, en volume global, qui est similaire. Ce qui apparaît dans votre... Le rapport qui vous a été transmis s'agissant des soldes intermédiaires de gestion et notamment l'évaluation de l'épargne nette, avec la singularité que j'évoquais précédemment, c'est qu'on se retrouve sur l'exercice 2018 pour une part des dépenses, je dirais, appliquer un petit peu la double peine comptable, à savoir que les dépenses ont été transférées à la communauté, la compétence a été transférée à la communauté de communes à partir du 1er juillet ou à partir du 1er septembre. Donc la communauté de communes a supporté les dépenses correspondantes, mais les attributions de compensation ont été versées sur l'exercice 2018 en totalité aux communes. C'est-à-dire que ce travail de recalcul n'ayant pas été fait, pour l'ensemble de ces trois compétences, la communauté de communes a supporté à la fois les dépenses liées à ce transfert des compétences, mais avait aussi versé l'attribution de compensation correspondante. Et donc c'est que sur le budget 2019, 19, après que la CLEC aura travaillé, que les communautés de communes auront validé les rapports, qu'on pourra venir faire un rattrapage, mais on a cette singularité sur l'exercice 2018, que pour un certain volume de compétences, la communauté de communes a payé deux fois. S'agissant des dépenses d'équipement, vous en avez la liste telle qu'elle a pu être éventilée par opération. Donc des dépenses d'équipement qui, en cumulant ce qui a été réellement réalisé et ce qui est engagé et qui figure en reste réalisé, donc un volume de dépenses d'investissement de 13,2 millions. On retrouve la part des fonds de concours, mais qui ne sont pas la part majoritaire telle que ça a pu l'être dans le passé. On a 2,4 millions. Moins de 2,4 millions de fonds de concours, le reste, donc pour un peu plus d'environ 11 millions, ce sont bien des dépenses que la communauté de communes a portées en plein en sa qualité de maître d'ouvrage. S'agissant des différents budgets annexes, qui sont au nombre de 5, s'agissant du budget annexe du SPANC, donc du service public d'assainissement non collectif, qui ne fonctionne qu'en section de fonctionnement, on est sur, je dirais, des dépenses voisines de celles de 2018, les dépenses, mais à la fois les recettes, sont le reflet du volume d'activité du service et du nombre de contrôles. Et vous avez le nombre de contrôles qui ont pu être effectués. Donc on est sur environ 260 contrôles d'installation qui ont pu être effectués sur l'exercice 2018. S'agissant du budget de la zone d'activité Notre-Dame, pas de mouvement comptable sur l'exercice 2018. Les dernières opérations comptables se sont réalisées sur 2017 et c'est l'objectif de le clôturer sur l'exercice 2019 au regard des dernières ventes qui ont été actées et signées ou de la délibération qui avait été prise s'agissant du lot 7 de pouvoir le reverser au budget général. S'agissant du budget annexe de l'Office de tourisme donc, qui a pu être discuté comme la réglementation l'impose dans le comité se raccrochant au fonctionnement de l'Office de tourisme. Donc budget qui est financé donc, à hauteur de 527 000, recette globale, qui est financé pour une très faible part par la taxe de séjour à hauteur de 27 000 euros. Le reste, c'est à travers l'exercice 2018, c'était une subvention d'équilibre du budget général vers ce budget annexe pour un montant de 500 000 euros. Et in fine, on aboutit à un résultat de clôture de plus 427 000, qui va nous amener à pouvoir revoir le montant de la subvention d'équilibre sur l'exercice 2019, et au lieu d'avoir une subvention d'équilibre de 500 000 euros, de revenir à 250 000 euros, mais de garder, je dirais, marge de manœuvre qui permet notamment d'alimenter la section d'investissement au regard des travaux envisagés, je pense notamment au point office tourisme de Montlas. S'agissant du budget annexe de la croisière sud, comme je l'indiquais en préambule, c'est un des deux budgets qui a été ouvert sur l'exercice 2018 et il ne retracera sur l'exercice 2018 que des opérations d'ordre correspondant au transfert, les différents terrains qui ont été acquis sur ce secteur-là, correspondant anciennement à zone but à gaz. Donc les acquisitions s'est effectuées sur le budget général, donc on va venir à travers une écriture d'ordre, rebasculer cette dépense sur le budget annexe. De la même façon, pour ce qui est des études et travaux préparatoires, hauteur de 62 000 euros. Donc, on va venir alimenter cette valeur du stock, puisque c'est un budget qui se rapporte à la commercialisation à venir, à hauteur d'1,482 million. S'agissant du budget annexe du pôle médical, donc lui aussi, budget qui a été créé sur l'exercice 2018, donc qui a, au travers des dépenses à hauteur de 137 000 euros, correspond aux premières dépenses que la communauté de communes avait initiées pour partie sur le fonctionnement et notamment la prise en charge des salaires correspondant aux tâches que CCRLP a souhaité ne pas voir mettre en œuvre par les praticiens. Et puis c'est le loyer consenti aux propriétaires de la SCI. Et en contrepartie en recettes, on figure les produits de location aux praticiens. Et ce budget-là a été mis en équilibre et alimenté par une subvention d'équilibre du budget général à ce budget annexe de 150 000 euros. Et on vient de dégager un résultat d'exercice de 51 400, qui lui permettra, sur l'exercice 2019, d'alimenter les premières dépenses d'investissement. temps passé, peut-être rapidement, mais je pense que les discussions pourront aussi porter là-dessus, sur le bilan 2018, s'agissant des orientations, donc vous vous retrouvez dans la note à partir de la page 14, s'agissant des dépenses réelles de fonctionnement. Et si on fait un comparatif entre le budget qui a été voté sur l'exercice 2018, qui était à un peu plus de 32 millions, s'agissant des dépenses réelles, l'objectif, c'est de pouvoir voter un budget 2019 à hauteur de 31 millions d'euros. Et cette différence expliquant ce que j'évoquais, c'est qu'on va venir rattraper sur l'exercice 2019 partie des attributions de compensation qui ont été versées, je dirais, par avance en 2018, ce qui vient expliquer notamment cette baisse-là. S'agissant de l'évolution des... si on s'attache à quelques chapitres, je pense au chapitre 11, qui correspond aux charges à caractère général de la structure. Hors compétences nouvelles, on est sur un budget quasiment constant, mais vous retrouvez pour plus de 1 million, ce qui est afférent aux dépenses nouvelles liées à aux trois compétences transférées, voirie, équipement scolaire et autres équipements. Avec de la même façon une incidence sur le budget, le chapitre 12, en termes d'évolution, je dirais hors compétences nouvelles, on a pris en compte une augmentation de 3% qui permet de financer ce que l'on appelle techniquement le glissement vieillesse et technicité, c'est-à-dire l'évolution de carrière des fonctionnaires, mais de prévoir une enveloppe chiffrée à ce stade-là et sous réserve des décisions à venir de la CLECT, 1 154 000 euros correspondant au personnel qui va être transféré dans le cadre ce transfert de compétences ou des recrutements qui seraient rendus nécessaires au regard d'agents possiblement transférés et non en capacité à assurer leur mission. S'agissant du chapitre 14, lui, c'est celui donc, qui correspond au reversement que la communauté de communes effectue vers les communes, donc à la fois en termes d'attribution de compensation et de dotation de solidarité communautaire. Le projet est de mettre, s'agissant de la dotation de solidarité communautaire, donc ce reversement facultatif, de le maintenir au même niveau que ce qu'il était en 2018, 3 396 000 euros, sous réserve après la discussion sur les critères qui viennent répartir ce montant-là pourront venir par la suite, et on en a débattu lors d'une précédente séance, mais c'est de pouvoir acter le maintien de cette enveloppe à un peu moins de 3 400 000 de dotation de solidarité communautaire et les attributions de compensation donc qui vont être recalculées et qui seront en diminution à la fois au titre de l'exercice 2019 et donc, comme je l'ai déjà indiqué, au regard du rattrapage sur l'exercice 2018. Le chapitre 65, c'est celui qui se rapporte aux charges de gestion courantes, et on va notamment y retrouver dedans les subventions d'équilibre au budget annexe. Pas d'évolution notable prévue pour cette ligne budgétaire, de la même façon qu'on ne trouve pas d'évolution notable sur les chapitres 66-67. Donc, en conclusion, à ce stade-là de nos discussions, et notamment au regard du travail de la CLEC, un budget primitif 2019 qui pourrait être en baisse par rapport au budget global voté sur l'exercice 2018. Donc avec aussi, mais on y reviendra le 9 avril, c'est qu'au stade budgétaire, au moment du vote du budget, les attributions de compensation seront, puisque la CLEC n'aura pas achevé ses travaux et que les conseils municipaux n'auront pas acté, on sera, sauf décision que prendrait la CLEC, on serait sur les mêmes niveaux d'attribution de compensation que ceux de 2018. S'agissant des recettes réelles de fonctionnement, des recettes qui sont envisagées sur des volumes identiques à celles de 2018, pour un peu moins de 30 millions d'euros. Et là, l'objectif à rappeler, ça vous reviendra dessus, c'est que s'agissant des produits, des services, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation tarifaire pour l'ensemble des services, que ça aille de la restauration collective ou au coût que paye l'usager au regard des services qui font l'objet de la mutualisation. Et de la même façon, s'agissant de la fiscalité locale, pas d'évolution ni du taux de taxe d'habitation, ni du taux de foncier non bâti, de garder au taux similaire à ce qui était ceux de 2018. De la même façon, pas d'augmentation, de revalorisation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, où on est sur la continuité des taux qui avaient été fixés par chacune des communes avant le transfert. Et au regard des fois de ce que des tentations que pourraient avoir certaines collectivités de venir compenser des pertes qui pourraient arriver de son autre. ACCRLP, pas d'instauration de taxe sur le foncier bâti, pas d'instauration de la taxe GEMAPI. Et de la même façon, s'agissant du taux de cotisation de CFE à destination de l'ensemble des acteurs économiques, petits, mais je serais un peu péjoratif dans le terme de petits, mais petits, enfin, en termes de volume de chiffres de ces acteurs, que ce soit les commerçants locaux, des petits artisans, c'est qu'on continue à mettre en œuvre ces bases minimum qu'on a pu instituer et donc qui permettent à près de 45% de nos acteurs économiques de bénéficier, au regard de ce qui peut se passer ailleurs, de cotisations minimales. Si on fait le dispatching un petit peu sur ces recettes-là, puisque c'est ce chapitre dans lequel sont noyés à la fois de la fiscalité des ménages, fiscalité des entreprises, mais c'est lui qui représente le plus gros poste de recettes, hein, puisque sur 30 millions, c'est près de 23 millions. La fiscalité des ménages ne représenterait que 1,9 million d'euros sur la base des revalorisations des bases, mais qui sont celles des décisions de l'État. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur une enveloppe de l'ordre de 2,4 millions. La CFE représente une recette de 11 millions d'euros avec, encore une fois, la singularité de notre territoire où 90% de la recette est apportée par une dizaine d'acteurs économiques. Et s'agissant de la part de la fiscalité qui n'est pas... qui est indépendante des décisions de CCRLP, hein, je pense à la CVAE ou d'autres... disposition. Elle représente environ 3,3 millions et on a des compensations de l'État à hauteur de 6 millions, ce qui qui ramène à ce montant de ce chapitre 73 impôts et taxes d'environ 23 millions. Pour les autres, petite variation entre le chapitre 74, mais c'est de la mécanique comptable où on avait un certain nombre de recettes liées au réseau mutualisé. Pour lequel le percepteur nous demande de les intégrer plutôt au chapitre 70 qu'au chapitre 74, qui se retrouve donc en évolution. S'agissant des dépenses d'investissement, volonté affichée de la communauté de communes de maintenir un niveau d'investissement important, et on est toujours dans l'optique de la programmation pluriannuelle 2017-2019 qui avait été affichée. S'inscrire s'agissant des dépenses d'équipement sur un programme d'environ 13 millions d'euros. Pour vous citer très rapidement quelques actions emblématiques, hein, l'aménagement, la fin de l'aménagement des halles du terroir, la deuxième salle du cinéma, tous les travaux que le comité de communes envisage de réaliser dans les équipements scolaires, sportifs, culturels qui ont été transférés, la finalisation du haut débit. La mise en route de la déchetterie, nouvelle déchetterie, les fonds de concours, et si on vient y rajouter la décision que notre conseil avait prise de venir acheter l'ensemble des terrains sur la ZAC Pan-Europarc, on est globalement à des dépenses, un budget d'investissement à hauteur de 16 millions d'euros. Si on s'intéresse à, je dirais, de manière théorique, sur la base du calcul du fonds de roulement de l'épargne nette de 2019, hein, avec la singularité là aussi de cette épargne nette qui va être à recaler au regard de cet aspect d'AC, on est sur des crédits disponibles d'un peu moins de 10 millions d'euros, ce qui voudrait dire que dans nombre de collectivités, nécessité de venir mettre un emprunt théorique, enfin ce qu'on appelle l'emprunt d'équilibre à hauteur de 6 millions. Au regard de ce qu'on va être capable de dégager en section de fonctionnement, on ne sera pas dans cette forme-là, mais ça serait l'enveloppe, la jauge maxi, si on devait dire l'ensemble de... Enfin, le reliquat de financement devrait s'opérer par exemple. Là aussi, je le redis, c'est tel que c'est affiché, c'est bien un équilibre théorique nécessaire, indépendamment de l'affectation partielle du résultat que l'on fera de la section de fonctionnement à la section d'investissement. S'agissant des différents budgets annexes qui vous sont présentés donc à partir de la page 21, le budget annexe du SPANC sera reconduit à l'identique au regard, et là aussi viendra refléter l'activité prévisionnelle du service, les dépenses correspondant aux charges que l'on a vers le prestataire qui assure les différents contrôles, la valorisation pour la moitié d'un ETP des dépenses de personnel, et on a en termes de produits de services les redevances que payent les différents usagers, propriétaires d'installation et objets d'un contrôle, et une part de pour environ 3500 euros de participation de l'État, enfin, au travers de son organisme tel que l'Agence de l'eau, au regard des bonnes pratiques. S'agissant du budget annexe de la ZAND, tel que je l'indiquais, donc, les lots 5 et 6 ayant été cédés sur la base de l'acte signé très récemment en début d'année par le président, et le lot numéro 7, qui lui, au regard de ses caractéristiques, a un petit peu de mal à être commercialisé, qui sera transféré au budget principal sur la base d'une délibération que l'on avait prise l'année dernière. On va venir retracer ces écritures, ces dernières écritures sur table, et essentiellement la clôture, et venir redire les éléments, enfin le montant qu'on avait déjà affiché précédemment. Le versement d'une subvention d'équilibre de 1,5 million du budget général à ce budget annexe au regard du coût de l'aménagement et de la commercialisation. S'agissant de budget annexe de la croisière sud, lui, de la même façon, on va venir comptabiliser au cours de l'année les différentes opérations de cession des terrains et d'aménagement. On est sur un coût estimé de l'opération d'aménagement avant commercialisation de 3 millions d'euros. Et c'est là que la réflexion a été entamée, notamment, si on reprend le corollaire, il y a deux façons de le financer. Hein. C'est ce qui avait été fait dans le cadre de la ZAND, au travers d'une subvention d'équilibre du budget général ou via des emprunts, au regard du contexte aujourd'hui où la communauté de communes a récupéré nombre de compétences et une charge de roulement conséquente, et au regard du taux d'emprunt aujourd'hui, sans doute plutôt à terme s'orienter vers un financement de cet aménagement vers l'emprunt, de façon à ce que la charge financière soit aussi répercutée auprès des futurs acquéreurs, mais en revoyant aussi les modalités de cession. S'agissant du budget annexe de l'Office de tourisme, des dépenses à caractère général, un budget de dépenses envisagé à hauteur de 275 000 euros, et on est sur des dépenses à caractère général, des dépenses de personnel qui sont similaires à ce qui a pu être constaté sur l'exercice 2018. Les autres charges de gestion correspondant à des adhésions à des structures professionnelles. Et on a en recette, de la même façon que sur l'exercice 2018, une très faible part correspondant à la taxe de séjour et la nécessité donc de verser une subvention d'équilibre de 250 000 euros pour venir équilibrer, je dirais, globalement cette section de fonctionnement et permettre notamment de venir alimenter la section d'investissement à hauteur de 130 000 euros, qui est aujourd'hui le premier chiffre, notamment correspondant à l'aménagement du point office tourisme de Mornas, sur la base des études aujourd'hui en notre possession. Dernier élément en termes de budget annexe, le pôle médical. Donc, comme je l'évoquais précédemment, donc on est sur des niveaux de dépenses correspondant à la location que CCRLP paye aux propriétaires sur des montants similaires. Des charges de personnel à hauteur de 50 000 euros, donc c'est la charge qu'assume CCRLP pour ce qui relève de l'entretien et du secrétariat de l'ensemble des praticiens, de façon à ce qu'ils ne se consacrent, et c'est ce qui aujourd'hui fait qu'ils peuvent être intéressés par cette structure, qu'ils ne se consacrent qu'à leur métier. Au regard de ce qu'on avait pu dégager sur l'exercice précédent, c'est que la subvention d'équilibre ne soit versée qu'à hauteur de 150 000 euros, à l'identique de ce qu'elle pouvait être sur l'exercice 2018. Et on est bien toujours sur le point qu'on avait pu évoquer, c'est que tant qu'on n'a pas un taux de remplissage, c'est ce niveau de subvention d'équilibre qui sera nécessaire, l'objectif étant, au fur et à mesure que le nombre de praticiens s'installe, qu'on puisse aller jusqu'à redescendre vers une subvention qui ne dépasse pas 50 000 euros. Vous avez les éléments tels que la réglementation l'exige pour les structures de notre taille ou de caractéristiques. Les éléments se rapportant à la rémunération, vous retrouvez l'évolution du nombre d'agents entre le 1er janvier, notamment 2018 et 2019, et vous retrouvez les éléments que j'ai pu évoquer précédemment en termes de transfert de personnel transféré ou de recrutement qui serait nécessaire pour venir compléter au regard des caractéristiques des agents. Et vous avez le détail des rémunérations, à la fois pour ce qui concerne les titulaires et les contractuels en termes de ventilation, bien évidemment, sont à rajouter à ce tableau les charges patronales. On a environ plus de 3 millions de de rémunération versée directement aux agents, mais il y a bien évidemment 1,4 million de charges patronales à venir rajouter. Et vous avez de la même façon, sur des volumes bien évidemment moindres, les informations relatives au nombre d'agents travaillant pour l'Office de tourisme. Voilà, peut-être rapidement, mais sans laisser la place au débat, les éléments semblant les plus importants tels qu'ils figurent dans le rapport qui vous a été adressé.
Merci, Monsieur Grappin. Y a-t-il des interventions ? Monsieur Moreau.
Merci. Donc j'ai essayé de vous écouter avec une extraordinaire attention, Monsieur Grappin, mais je vous prie de m'excuser, je n'ai pas compris sur la page 9, le chapitre 77, produits exceptionnels. Vous en avez parlé, mais je n'ai pas entendu la question que je vous pose. Est-ce que c'est un emprunt ?
Non, on n'est pas du tout sur un emprunt, on est sur le reversement de la, je dirais de la, pardon, s'agissant de la zone d'activité de la croisière, ce que j'évoquais, c'est que les dépenses ont été portées au budget général par CCRLP, donc on vient à mener une opération d'ordre de façon à venir comptabiliser ce mouvement sur le budget annexe. Et bien évidemment, on a en retour une opération qui nous ramène cette recette-là. On est toujours sur le principe, une recette d'investissement est équilibrée à travers d'une dépense de fonctionnement, et on est sur les fonctionnements croisés. Pas du tout d'emprunt sur ce volet.
J'ai compris, merci. Alors, nous arrivons actuellement à la fin d'une dégradation constante et permanente des comptes de la CCRLP depuis 6 ans, c'est-à-dire sur le mandat présent. Alors, sur ce rapport annuel d'orientation budgétaire, il le dit lui-même en page 9, je vous engage à venir à la page 9, voilà, sur le tableau qui est en bas de page, tableau SIG. L'épargne brute, hein, qui est l'autofinancement des investissements, c'est-à-dire la donnée essentielle, hein, à l'analyse financière et qui permet donc d'investir et de rembourser les emprunts contractés, l'épargne brute donc a littéralement fondu depuis 2013, c'est-à-dire depuis le début de ce mandat. En 2013, dans le DOB de la CCRLP, on parlait encore, on cite, hein, de gestion saine. L'épargne brute ou nette, car il y avait très peu d'emprunt, donc elle était à peu près similaire, c'était 6,5 millions à ce moment. Dans le DOB 2014, là, c'est la première colonne que vous avez, l'épargne nette et l'épargne brute étaient de 6 687 000. Voilà. 4 ans plus tard, on est déjà passé à 1 333 000, hein, pour 2017. Nous attendions donc, nous, avec anxiété, ce qui allait se passer en 2018. L'épargne brute 2018, page 9 du DOB, vous voyez, sur la colonne 2018, est présentée à un montant non consolidé pour un résultat négatif de 346 000 euros. Alors, comme vient de nous l'expliquer M. Grappin, ce solde de gestion doit être consolidé de la baisse de l'attribution de compensation qui doit suivre l'intégration des nouvelles charges transférées, quoi. Concrètement, c'est un mécanisme différentiel. Les dépenses de fonctionnement augmenter du coût des transferts de compétences et la dépense de l'attribution baisse en contrepartie de manière équivalente. Voilà. Alors, ces nouvelles charges sont évaluées dans le rapport de l'ACLET, mais ont été citées tout à l'heure. Les charges transférées...
S'il vous plaît, vous avez raison, Monsieur Morin. S'il vous plaît.
Arrêtez de maugréer sans arrêt pour me déstabiliser.
Allez-y.
Si vous voulez prendre la parole, Monsieur Perron,
vous
le demandez au président et vous pouvez parler. Mais
bien sûr.
Ou alors je vais demander à changer de place, à me mettre ailleurs, parce que c'est vrai, c'est pas gérable.
Allez-y, voilà. Je vous en prie, Monsieur.
C'est extraordinairement agaçant.
S'il vous plaît, Monsieur Perron.
Allez-y, monsieur Morand.
Je recommence. Alors, ces nouvelles charges sont évaluées dans la CLEC et ont été chiffrées par monsieur Grappin, qui les a nommées. C'est-à-dire 977 000 euros, il nous a dit. Alors, oui, 977 000 euros. Alors, le solde réel dit consolidé pour 2018 est donc de moins 346 000 euros plus 978 000 en arrondissant. Donc, ce qui nous fait 632 000. Voilà, donc on peut écrire là sur la dernière ligne par net 2018 0,632 millions, puisqu'on parle en millions. Voilà. Alors, en 5 ans, la gestion de M. Gillot a donc fait passer l'autofinancement d'une des collectivités les plus riches de France de 6,7 millions d'euros à 0,632. Il faut savoir que l'épargne brute est un solde de gestion indispensable. C'est comme pour un particulier. Si l'on n'a pas de quoi rembourser un emprunt en l'autofinançant, les banques ne vous prêtent pas. C'est logique. On ne peut emprunter pour rembourser un emprunt car on tombe dans l'endettement très vite, courbe exponentielle. Alors désormais, la CCRLP n'a plus d'épargne. Elle ne peut plus emprunter car elle ne peut plus rien rembourser. Quelle banque prêterait à une collectivité qui ne peut pas autofinancer ses remboursements? Comment une collectivité qui avait encore il y a peu 6 millions d'euros d'épargne brute et qui se vantait, on cite, d'avoir une gestion saine en 2013, est-elle arrivée à dire en 2019, on cite M. Gillot, page 20 de ce DOB, l'emprunt d'équilibre théoriquement nécessaire au financement de la programmation pluriannuel des investissements est donc de 6 millions d'euros. Alors même si cela a été temporé par M. Grappin, c'est ce qui est écrit. Et on va donc emprunter sans avoir l'autofinancement minimum pour rembourser. Mais comment en est-on arrivé là? Vu la dérive des dépenses de fonctionnement ces 4 dernières années, c'est simple à observer, 600 000 euros de déficit du service public des ordures ménagères, alors qu'on n'est toujours pas en taux moyen unifié de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, et donc que l'on finance le déficit d'exploitation sur le budget général, une subvention d'équilibre à géométrie variable pour le touriste de 0,5, alors qu'elle est d'abord fixée à 1 million, puis après discussion, on revient à 0,5, mais dans l'ensemble, sur le tourisme, comme sur les autres domaines, on ne sait pas où on va. Madame Calero, je pense, reviendra sur le sujet. Des dépenses de personnel largement au-delà de celles transférées, une équipe de cadres non mutualisée pour un coût de plus de 700 000 euros qui ne se trouve pas dans les attributions de compensation, un service communication non mutualisé et qui regroupe des moyens importants. Hein, voilà. La prise en charge de services non transférés mais votés dans l'intérêt communautaire, comme des séjours vacances et des services à la petite enfance, services autres que ceux de Bolène et qui sont facturés aux autres communes en dessous de leur prix de revient, une estimation de ces surcoûts serait la bienvenue. Hein. Ce sont des facturations de services. La CCRLP va donc emprunter sans pouvoir rembourser, avec pendant les 6 dernières années, plus de 18 millions d'euros de trésorerie, 365 jours sur 365. En fait, la CCRLP a encaissé la très importante fiscalité de Bolène avant de la dépenser dans toutes sortes de prestations. La fiscalité économique des ménages de la CCRLP, c'est 23 millions d'euros en 2018, hein, soit 936 euros par habitant. Et malgré cela, la CCRLP, encore une fois, va emprunter pour payer les travaux de la piscine et des bâtiments scolaires de Bolène, alors que depuis 6 ans, elle a refusé de céder une partie de cette trésorerie à la ville. Centre qui, en contrepartie, celle-ci aurait pu faire tous les travaux qu'il aurait fallu et à moindre coût. Cette absence de gestion financière de l'intercommunalité est une catastrophe économique pour les contribuables et les entreprises bolénoises qui auraient pu travailler sur tous les équipements publics depuis 6 ans. Bon, le reste du DOB de la CCRLP est du même acabit. Je ne vais pas trop m'y étendre pour ne pas vous noyer, pour que vous puissiez bien réfléchir sur le point d'orgue de ma présentation. L'épargne. Voilà. Donc on ne met toujours pas en place le taux moyen unifié de l'atome, ça je l'ai déjà dit, mais je précise que la CCRLP est la seule EPCI, enfin le seul EPCI par contre de tout le Vaucluse à ne pas l'avoir fait. Et là encore, c'est un an de perdu. Une subvention d'équilibre, certes exceptionnelle, de 1,4 million pour payer la viabilisation des terrains de la zone d'activité de Mondragon, vendu 19 euros en moyenne du mètre carré, alors qu'ils ont coûté 44 d'aménagement, mais cette fois-ci, c'est en recette. De quelle manière peut-on transformer un déficit en recette d'exploitation? Vous empruntez donc sur le budget annexe pour rembourser en avance du budget principal. En conclusion, cette méthode de gestion n'a pas de sens. D'un côté, vous demandez des transferts et de l'autre, vous ne pouvez pas emprunter pour les financer. Vous faites du mal aux gens pour rien. En 5 ans, vous avez totalement gâché une situation qui était magnifique.
Merci, Monsieur Morand. Y a-t-il d'autres questions? Madame Calero. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le public n'a pas la parole, premièrement. Et puis, si on peut s'écouter, c'est pas mal.
Perron qui me dit qu'il n'a rien compris.
Voilà. Non, mais s'il vous plaît, Monsieur Morand et Monsieur Perron, s'il vous plaît. Madame Calero, vous avez la parole. Appuyez sur votre... sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Merci.
Merci. Mesdames, Messieurs, j'ai travaillé sur le DOP de l'Office de tourisme. Alors, je vais vous lire mon analyse. Si elle n'est pas assez claire, j'ai à votre disposition un tableau, un graphique qui est beaucoup plus clair. Et contrairement à ce qu'une pseudo-journaliste a dit sur un article, je vais parler au nom de l'équipe et pas qu'à mon nom. Parce que si on ne parle pas, on est des moutons. Si on parle, on va se présenter contre Madame Bompard. Voilà. C'est,
Alors, chers collègues, je veux juste... j'ai eu un reproche la dernière séance. J'ai envoyé un courrier...
Non, mais
attendez. Je veux l'équipe. J'ai envoyé un courrier à Monsieur Massard pour lui dire le manque d'élégance qu'il y avait à prendre à partie des personnes dans le public qui n'ont pas le droit à la parole. Et j'aimerais qu'il en soit de même désormais dans cette assemblée, où on ne cite pas nominativement les gens, et où on ne fait pas allusion à des personnes qui sont présentes dans le public, mais qui n'ont pas la possibilité d'y répondre. Voilà, je l'ai écrit par courrier à M. Massard.
Mais M. Massard a eu droit à la parole, donc j'en profite aussi. Voilà, donc je voulais que tout soit clair.
Éteignez votre portable, il est éteint.
Je vais passer à mon analyse. Donc, M. Zilio, vous n'avez cessé de répéter que vous allez faire mieux avec moi. Vos collaboratrices se sont vantées de rendre la ville sexy. Les chiffres que je vais vous présenter ce soir vont prouver combien vous mentez. Lors du bilan de l'OTI, qui a été balayé lors de la présentation, et on comprend pourquoi, entre parenthèses, celui-ci a été présenté fin août, alors que la saison se finit en septembre. Mais bref, cela ne changera rien à ma conviction que vous ne fêterez que du vent. Vous nous avez donc donné les chiffres de fréquentation de l'année 2018. Pour l'OTI et le PIT, de juin à août, il y a eu 1723 visiteurs. En 2016, sur la même période, 3649 visiteurs pour l'OT de Bolène, soit une diminution de la fréquentation d'environ 53%. De plus, on constate qu'il y a plus de visiteurs de la zone CCRLP que des autres départements ou des étrangers. Fréquentation du site internet, en juillet, 610. Pour l'OT de Bolène, c'était 4971 visiteurs différents. Et je ne vous parle pas des connexions, il y en avait 70 000. Hein. Soit une diminution de la fréquentation d'environ 88%. Je rappelle que nous constations en 2016 déjà une augmentation régulière de l'outil informatique. Le nombre d'agents d'OTI, de l'OTI est de 4. Pour Bolène, c'était 2. Lors du dernier DOB, j'annonçais une année 2018 difficile. Mes prévisions sont malheureusement meilleures que les vôtres, car vous aviez beau acclamer sur les journaux ou dans votre rapport que la fréquentation est en hausse, que vous faites mieux que Bolène, les vrais chiffres sont là. La réalité est là. Elle est dans le fait que non seulement vous faites exactement la même chose que Bolène, mais vous augmentez les coûts. Une autre parenthèse, vous aimez bien recopier. En fait, vous critiquez tout ce que fait Bolène, mais vous reprenez tout. Colis pour portage à domicile, rose pour les fêtes, le forum des seniors, l'aquarellax, ça a été volé, ça, entre parenthèses aussi. Réunion de quartier, magazine, décoration de Noël, et je dois en oublier. Dans le fameux article du 14 janvier 2018, je vous rappelle que les agents, après avoir critiqué la gestion de Bolène, ont déclaré devoir tout recommencer à zéro. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi sérieuse et commencerait par la fréquentation. Regardons le budget. Vous prévoyez un compte administratif 2018 comme suit. Un budget en dépenses de fonctionnement de 239 911 euros. Pour l'OT de Bolène, c'était 123 000 euros, une augmentation d'environ 95%. Dépenses de personnel, 142 186. Pour Bolène, c'était 113 000, une augmentation de 25%. Dépenses à caractère général, alors là, je ne sais pas si j'annonce les chiffres, 95 978 euros, et pour l'OT de Bolène, c'était 10 000. 859% d'augmentation. Nous pouvons constater que tout augmente, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le budget à venir pour 2019. Cela ne cesse d'augmenter. 130 000 en dépenses générales, augmentation supplémentaire de 36% par rapport à 2018. Voyons pour les animations ce qu'il y a en plus qui justifie ce budget, ce qui a marché ou pas. Je vous l'accorde, les séances de cinéma sont nouvelles. Budget pour 2019, 8 000 euros. Une autre nouveauté, mais pas pour longtemps, la fête du goût et des saveurs à la Motte, qui apparemment va être, au grand désespoir de M. Pérez, annulée ou reportée. À voir. Le constat est que ce n'est pas la bonne période pour les producteurs, pas un besoin pour les restaurateurs et peu de fréquentation. Alors que vous annonciez 300 personnes au bilan, vous faites preuve de contradiction, c'est grave. On peut douter de la véracité des chiffres que vous nous donnez. Une autre raison qui fait que cela n'a pas fonctionné est qu'il fait très chaud. Cela va être compliqué pour la suite. Parce que dans notre région, nous avons plutôt tendance à avoir des étés caniculaires. Donc, pour cette fête du goût et des saveurs, il fait trop chaud. Alors qu'au conseil d'exploitation, les amis de Monas disaient qu'ils avaient eu beaucoup de visiteurs malgré la chaleur. Là aussi, c'est contradictoire. Qui a tort, qui a raison? Voilà pour les nouveautés. Voici ce que nous faisions déjà et les constats. La fête de la musique, et là, vous aviez des problèmes d'autorisation ou de non-respect de la réglementation. Des goûters d'apéritifs et d'accueil, goûter, heureusement que les enfants du centre de loisirs étaient présents, sinon l'animatrice se serait ennuyée. Balade vigneronne, là, il faisait encore trop chaud. Spot publicitaire radio, ça on faisait aussi. Set de table, tiens, voilà qui se rajoute à la liste des copies. Support de communication, ou je dirais plutôt objet publicitaire en vue de faire connaître l'Interco, comme si c'était une entreprise, et non la promotion de notre territoire. Vu le budget alloué, environ 10 000 euros, et le nombre de fréquentations, est-ce raisonnable ? Le site internet que nous avions également, enfin là, je dirais. Mais il y a encore du travail vu la fréquentation aussi. Voilà ce que vous faites avec 100 000 euros et ce que nous faisions pour seulement 10 000 euros, monsieur Zilliou. En ce qui concerne les projets à venir, quelle surprise d'apprendre que vous souhaitez faire une animation le 14 juillet au lac des Girardes et quelle surprise d'apprendre que vous souhaitez faire un feu d'artifice. Feu d'artifice qui existe déjà et qui est financé par la ville de La Palue dans le cadre de l'animation et non du tourisme. Celui-ci sera financé de moitié par l'Interco. Un feu d'artifice qui va être amélioré, nous dit-on. Oh là là, vous allez illuminer la phrase entière le 14 juillet et toujours aussi prétentieux, monsieur Zilliou. Continuons avec les surprises. Une foire commerciale à La Palue. Pardon, c'est la foire avicole qui se transforme en foire commerciale le 14 avril. Cela ne vous rappelle pas la foire de la Saint-Martin à Bolène? Et hop, encore une copie. À croire que M. Zilliou va aussi faire sa salle des fêtes. En conclusion...
Moins cher.
En conclusion... Oui, oh ben ça, c'est pas sûr, hein, parce que vu les chiffres, vous n'en avez pas eu assez, là.
Allez-y, allez-y.
En conclusion, c'est à nous, ville de Bolène, de dire que nous faisions mieux avec moins. Vous en avez la démonstration à travers les chiffres que nous vous avez donnés et les chiffres que nous vous avions donnés. L'office de tourisme de Bolène était déjà intercommunal de fait, puisque nous faisions la promotion des villages, des hébergeurs, des restaurateurs, des animations. Vous auriez pu repartir sur les mêmes bases financières, mais votre choix s'est porté sur le dépenser plus, comme vous faites pour les autres compétences. Cette compétence est obligatoire et nous le regrettons déjà. Voilà pourquoi, en plus de la mauvaise gestion des autres compétences, nous ne voulons pas vous transférer d'autres compétences et nous saurons vous le rappeler.
Merci Madame Calero. Y a-t-il d'autres interventions ? Madame Fournier.
Bonsoir. Vous voulez la parole, monsieur ?
Non, allez-y, c'est vous qui avez la parole et c'est moi qui la donne.
Donc, voilà une analyse très réaliste sur le devenir du tourisme sur notre territoire. Et je sais qu'on va nous dire encore une fois que Mme Calero ne sait pas lire les chiffres. Or, il suffit simplement de les regarder pour voir les dépenses faramineuses engagées et pour un résultat de plus en plus médiocre. Les sommes dépensées ont-elles fait venir plus de touristes ? Non. Et dans aucune ville de l'Interco. Il ne suffit pas de dépenser de l'argent pour faire tourner une entreprise. Et là, c'est un chef d'entreprise qui vous l'affirme. En ce qui concerne le personnel, 4 personnes, c'est vraiment beaucoup trop. 2 personnes et quelques vacataires suffisent l'été et ne feraient pas exploser les charges de personnel. Surtout si, comme nous vous l'avions dit, un seul site d'accueil des touristes suffisait à Bolène. Cela a même été confirmé par un permanent de l'ADT, à moins que vous ne gardiez le PIT pour les toilettes, puisque c'est une constatation que vos agents nous ont fait part lors du bilan de la saison 2018 au Conseil d'exploitation du 30 août. Vous qui clamez haut et fort que vous alliez faire revivre le centre-ville de Bolène, là vous aviez l'opportunité d'y faire venir tous les touristes, tous les vacanciers, ou plutôt que de les faire s'arrêter au rond-point et continuer sur les gorges de l'Ardèche et autres destinations. Mais pour cela, il aurait aussi fallu penser à envisager une aire de stationnement facile d'accès aux voitures, mais surtout aux caravanes et aux camping-cars. Merci.
Merci Madame Fournier. Y a-t-il d'autres interventions, docteur ?
Oui, moi je vais m'intéresser au pôle médical. J'ai vu que M. Grappin était très enthousiaste et je l'en félicite. Le problème, est-ce qu'il a vu éventuellement, avec l'abattement que vous avez fait de 30% de certaines charges, est-ce qu'il a vu un frémissement au niveau de cette population ? Est-ce qu'il pense que ça va s'améliorer assez rapidement ou ça dépend du contexte national ?
Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, M. Grappin, si vous voulez répondre.
Quelques éléments. Tout d'abord, faire réponse au propos de M. Morin. Et juste sans faire la règle, l'épargne nette, qu'est-ce qu'elle vient un brouille tout net, après derrière on y retranche les intérêts d'emprunt. Elle vient.
Oui, parlez plus fort.
Oui, je disais que l'épargne nette, elle est calculée essentiellement en prenant en compte, c'est intéressant, entre la différence entre les recettes d'une collectivité et les dépenses. Donc deux choses. Si on a des dépenses supplémentaires et si on veut rester sur le même niveau de charge nette, ça devient presque mathématique, c'est qu'on augmente nos recettes de fonctionnement. Bien évidemment, c'est un choix assumé de ne pas avoir fait évoluer les recettes de fonctionnement, et je voulais expliquer que on serait sur 2019 sur des recettes de fonctionnement similaires à 2018, et elles ne sont pas loin d'être similaires à celles de 2017. Donc soit, c'est une première réponse à apporter, c'est soit on vient augmenter les recettes, et aujourd'hui ce n'est pas la caractéristique, et souvent on est sollicité, et le contexte nous sollicite pour qu'on vienne revoir cette voilure. Juste un petit détail, s'agissant du taux unifié de la taxe dans les résidences ménagères, je rappelle qu'on a fait que reprendre ici et acter quelque chose qui nous avait été demandé, je crois, par vous, M. Morin, c'est qu'on prenne bien toujours en considération les caractéristiques et qu'on ne puisse pas se retrouver brutalement à devoir remettre à plat ce qui avait été acté par les communes et ne pas faire supporter à l'ensemble des habitants du territoire une charge identique. Alors après, s'agissant de nos dépenses, oui, nos dépenses augmentent. On a souvent ici raillé le fait que la tirelire de communauté de communes était importante, et on en parle souvent à l'extérieur, mais c'était des recettes alors que on n'avait pas de compétences à exercer. ou peu de compétences. On est aujourd'hui sur ce volet-là où à la fois on peut entendre une demande de voir évaluer, réévaluer les attributions de compensation, la dotation de solidarité communautaire. On est, et je vous ai donné les chiffres, sur l'évolution de nos charges entre 2018 et 2017, qui correspond peu ou prou à la compétence, aux compétences nouvelles que l'on a récupérées en 2018. Alors après, et vous l'avez dit, M. Morand, en bas de la page 9, effectivement, le tableau met en exergue la charge nette, enfin, le résultat de notre capacité nette au regard de cette singularité de ce qui se passe sur l'exercice 2018 où une partie des dépenses est payée en gros deux fois. La colonne d'après, et c'est ce qui est indiqué aussi en page 10, vient expliquer que si on neutralisait cet effet-là, on se retrouve sur une capacité à des hauteurs de 1 million. Alors après, s'agissant de cette incapacité qu'aurait la communauté de communes à emprunter. Alors, juste pour rappel, dans le DOB de l'année précédente, on disait que le besoin de financement théorique, en termes d'emprunt d'équilibre, était de 7 millions. Donc, cette année, je vous affiche 6 millions. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, je crois qu'on n'a pas emprunté. On est bien sur quelque chose de théorique. Et on est, au regard de l'exercice de clôture, sur un excédent global, les deux sections confondues, de 11 millions. Soit j'ai des dépenses de fonctionnement qui sont plus importantes que mes recettes de fonctionnement, eh bien là, oui, je vais le grignoter de manière importante. Mais je pense qu'on va avoir la capacité en 2019, comme on l'a fait en 2018, comme on l'a fait sur l'année précédente, de venir affecter une partie de notre excédent de fonctionnement pour pouvoir alimenter notre section d'investissement sans qu'on ait besoin de recourir à l'emprunt. Et quand bien même, est-ce que, au regard de cet excédent-là, une banque ne nous prêterait pas ? Je vous laisse ce propos-là. Parce que la banque le regarde effectivement en capacité de cette CAF, hein, cette capacité d'autofinancement, bien évidemment c'est un des critères, mais c'est aussi regarder au regard de l'évolution et aussi de ce qu'elle est capable de dégager. Après, voilà, je vous laisse vous rapprocher sur cette incapacité que l'on aurait empruntée, et bien évidemment qu'avant d'écrire certaines choses, on a pu venir se poser des questions. S'agissant de l'office de tourisme et vous permettrez, alors s'agissant, enfin si, le dernier propos monsieur Morand, s'agissant de la ZAND, oui, mais c'est un chiffre qu'on a affiché dès l'élection de monsieur Zilio à sa présidence, que l'aménagement de la ZAND au travers des choix qui avaient été portés précédemment, mais qu'on assume, et le président Zilio s'est chargé d'assurer la commercialisation, qu'on serait sur un déficit de cette opération à 1,2 million, 1,4 million, et c'est ce qu'on vous affiche aujourd'hui. Ce que vous oubliez de dire, c'est, et on va se retourner aussi vers les acteurs économiques, et c'était l'objet d'une note qu'on a pu vous remettre, c'était quel retour sur l'investissement de cette ZAND. De plusieurs façons, hein. Ce qu'on encaisse en termes de loyer, vitam aeternam, sur la base des... De ce qui a pu être dégagé en termes de recettes directes, mais aussi de recettes, enfin de fiscalité, enfin quand je dis de recettes, c'est lié à la fiscalité, les acteurs économiques qui se sont installés, mais aussi de recettes indirectes au travers de la richesse qu'on a pu créer sur ce territoire, et des exemples avaient pu vous être donnés de ce que les acteurs économiques ont pu retrouver là. Et je dirais que c'est, enfin, si on devait en témoigner, c'est au regard de cette demande qui est aujourd'hui formulée par le tissu économique de pouvoir retrouver un pendant, et c'est aussi l'objet de ce qu'on cherche à aménager sur la zone d'activité de la croisière, avec un concept de vente qui ne sera sans doute pas celui, et on ne viendra pas reproduire le modèle de la zone. S'agissant de l'office de tourisme, je vous donnerai moi simplement deux éléments, enfin un élément, et je vous laisse à l'appréciation et chacun en fera ce qu'il veut. Et je reprends un de vos chiffres, hein, et je vais m'attacher au chapitre 12. Vous indiquez, Madame Calero, deux agences, 113 000 euros, la communauté de communes, quatre agences, 120 000 euros. Ouais, je ne sais pas, je fais le prorata. D'un côté, j'ai 113 000 euros avec deux agents. De l'autre côté, j'ai 120 000 euros avec quatre agents. Donc soit, et ce chiffre 113 000 euros, effectivement, c'est celui qui a pris la clecte. Soit, à un moment donné, on a oublié quelque chose. Voilà. S'agissant après des chapitres... Si vous me permettez, juste pour illustrer quelques éléments. Alors, effectivement, le chapitre 11, il est important. 95 000 euros. Je ne veux pas vous faire la litanie. Vous le retrouvez dans le compte administratif, puisque les dépenses seront détaillées. Je vous donne deux chiffres, hein, dont le total fait 41 000 euros. Les publications touristiques, c'est 24 000 euros sur l'exercice 2018. Alors, je peux entendre qu'à Bolène, c'était moins. Je sais ce que ça coûte sur le territoire, maintenant que c'est géré par l'Interco. S'agissant de l'ensemble des dispositifs festifs, vous avez évoqué le cinéma, vous avez évoqué tout ce qu'on a pu mettre en œuvre derrière, c'est 17 000 euros. C'est 41 000 euros, sans doute, peut-être que Bolène faisait moins. Moi, je ne sais pas faire moins. Enfin, on n'a pas su faire moins que ces aspects-là. Alors, après, vous pouvez considérer que ce n'est pas suffisant ou que vous ne couvriez pas. Mais je pense aussi le retour qu'on a vers les acteurs économiques de ce secteur d'activité-là, au regard de ce qu'ils attendent en termes d'ouverture sur le reste du territoire. S'agissant de M. André, de voler l'abattement, juste une petite précision. Notre instance n'avait pas validé de manière systématique un abattement à l'ensemble des praticiens qui viendraient s'installer dans les locaux du pôle médical, mais on ciblait bien un abattement de 30% qui serait ouvert pour tout praticien et médecin généraliste qui s'installerait, de façon à pouvoir, je dirais, être là aussi, parce que bien évidemment, j'ai le regret, et on a tous le regret de constater qu'on est sur une concurrence qui s'exerce à l'échelle de territoires pas très grands, mais c'était ce volet-là et ce tarif-là d'abattement n'a bien été spécifiquement ciblé qu'à l'intention des médecins généralistes.
Je peux parler. Vous parlez des médecins qui s'installeraient sur le lieu ou dans ce cabinet médical, parce qu'ils étaient déjà installés sur Bolène. Donc ce n'est pas un apport supplémentaire. Et nous, ça nous fait un certain déficit, puisque nous sommes constamment sollicités pour des visites, pour des consultations que nous ne pouvons pas assumer.
Bon, je vais vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur Morin.
Oui, je n'ai jamais demandé à ce que les taux de la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ne soient pas unifiés. Bien au contraire, je voudrais que ce taux soit identique pour tout le monde, c'est-à-dire à service équivalent. Hein, voilà, tous ceux qui ont deux passages, qu'on appelle le C2, paieraient la même chose. Voilà. Tout le monde l'a fait, hein, toutes les autres structures équivalentes dans le Vaucluse l'ont fait, mais il est vrai que cette unification ne serait pas très électoraliste, puisque ça obligerait à augmenter les taux des petites communes et par contre à baisser celui de Bolène. Hein, c'est ça le problème. Donc je tiens bien à le préciser. Alors, au sujet des banques, vous nous expliquez que les banques nous prêteraient parce que nous avons une trésorerie. Mais ça me fait doucement rire. Je ne vois pas pourquoi on prêterait à quelqu'un qui a une trésorerie. Si vous êtes un particulier et que vous faites un emprunt, on va regarder votre autofinancement. Le banquier va vous dire, mais enfin, je remarque bien sur vos comptes bancaires que vous êtes soit dans le rouge en fin de mois, soit il vous reste pas grand-chose. Vous m'racontez que vous avez une réserve d'argent, eh bien, utilisez-la actuellement, mais venez pas me demander, je vous prêterai pas, vous n'êtes pas capable de rembourser. Et c'est ce qui va se passer assez rapidement ici à l'intercommunalité, surtout quand il n'y aura plus d'excédent de fonctionnement, et là on y arrive. Voilà. Oui, le bilan de la ZAND à propos, alors ça je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait. Chaque emploi revient à près de 10 000 euros. Je l'ai expliqué. Vous nous avez expliqué à l'époque, donc c'était votre argument, on va clôturer cette ZAND. Donc j'avais préparé ce document, je m'étais renseigné, j'ai beaucoup travaillé. Puis finalement, on n'a pas clôturé. Mais il faut dire qu'il nous avait déjà été annoncé bien avant, on allait clôturer. La joie maintenant, il est écrit, on va clôturer en 2019. Bon, on verra. J'y crois pas trop. Hein.
Bien, merci Madame Calero.
Apporter une précision sur les agents. Vous oubliez de préciser que dans les quatre agents, vous aviez un CAE qui ne coûte quasiment rien à l'intercommunalité. Et il est clair que nous, on avait déjà des agents qualifiés. Alors peut-être, c'est sûr que leur salaire était peut-être un peu plus élevé. Mais vous avez embauché. Par contre, on vous a transféré les agents, mais vous avez préféré recruter au lieu de garder ces agents-là.
Voilà. Bien.
Bon, écoutez, j'en attendais pas moins de l'opposition sur ce sujet-là, mais je pense que, contrairement à ce que vous répétez, puisque finalement vous êtes tellement prévisible que j'ai la réponse à l'ensemble des questions que vous venez de faire, puisque d'une année sur l'autre, finalement, vous ne changez pas. Sur le budget de la communauté de communes, j'entends, et j'ai tout noté, sur les comptes de la CCRLP en dégradation. Mais les comptes de la communauté de communes ne peuvent que se dégrader au vu des compétences qui sont transférées. Et que si on avait les 33 millions initiaux en 2014, parce que votre majorité, Madame Bompard, avait empêché le transfert des compétences depuis 10 ans, et donc ne permettait pas la réalisation de la communauté de communes dans des politiques publiques qui auraient pu être mutualisées. Permettez-moi au passage, Monsieur Morand, de vous dire que on vous a peut-être conseillé de parler de mutualisation, de la communication, sûrement du directeur de cabinet, de cadre, comme vous l'avez dit, puisque c'est ce que vous avez dit. Je doute quand même que vous soyez prêt à mutualiser les directeurs généraux de services, les directeurs des finances et la direction de la communication et l'ensemble de votre communication, quand dans un même temps, vous pouvez attaquer l'intercommunalité dans un magazine qui d'ailleurs n'a pas attaqué qui que ce soit, et qui au passage donc dégrade l'image de la collectivité. Mais par ailleurs, je remarque que vous intéressez aux charges de personnel, et donc je vais y revenir, notamment sur la dernière intervention de Mme Calero, qui est assez intéressante sur le transfert du personnel de l'Office de tourisme. Sur l'épargne brute et l'épargne nette, Monsieur Morand, vous êtes en commission finance depuis maintenant 5 ans. Quel est le montant de l'empreinte de la CCRLP ? Zéro. Il n'y a pas un centime d'emprunt. Donc vous dites aujourd'hui, en affolant comme vous aimez le faire, que la capacité d'emprunt va être, à rembourser l'emprunt va être terrible, mais il n'y a pas un centime de dette à rembourser. Preuve, s'il en est, je vous ai écouté patiemment, Monsieur Morand, et donc je vous demande de bien vouloir faire pareil, vous aurez l'occasion de parler après si vous voulez. Mais aujourd'hui, vous annoncez des choses qui sont complètement des illusions, d'autant plus que vous l'avez vu dans le budget 2018, nous annoncions 7 millions d'emprunts, et nous n'avons pas emprunté un seul centime. Et il y a donc une différence entre les orientations budgétaires et le budget prévisionnel, et ce que nous réaliserons, mais comme c'est un document comptable, il faut qu'il soit à l'équilibre, et dès lors qu'on ne peut pas boucler l'équilibre, il faut faire appel à l'emprunt. Je crois que vous l'avez fait sur la salle des fêtes à 3 millions, qui en a coûté 8, et vous l'avez fait sur d'autres projets qui méritaient quand même d'autres sujets. En ce qui concerne les nouvelles charges, notamment sur le rapport de la CLECT, alors je sais que vous les aviez annoncées avant tout le monde, parce que vous saviez les chiffres avant tout le monde. Ben, écoutez, la CLECT doit se réunir demain, je crois, demain après-midi, à 17h. Donc je veux bien croire que vous lisiez dans le marc de café. Moi, je ne peux pas définir cette commission que je ne préside pas, et pour laquelle c'est deux élus par commune qui y siègent. Et vous avez compris que mon amitié pour le maire de Bolène ne m'a pas fait siéger dans cette commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est donc en étant absent à cette commission que je ne peux pas savoir ce qu'il en est. Vous parlez de dérive de dépenses. Mais moi, je dirais qu'on ne peut pas être gagnant sur tous les tableaux. Aujourd'hui, sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement, lorsque vous avez évalué vos charges et que vous les avez transférées, sur une année 2018 où on a pris la gestion des milieux aquatiques et prévention des risques d'inondation, les écoles, les équipements culturels et sportifs et la voirie, il est, à mon sens, illusoire de croire que vous n'allez pas évoluer les dépenses de fonctionnement alors que vous prenez trois compétences supplémentaires, pour lequel un syndicat dissous, le syndicat des digues, avec un personnel à 10 ou 20%, avec des transferts de compétences que vous avez vous-même transférés sur des charges de personnel, des catégories B, des catégories C, sur cette gestion des écoles, sur ces compétences-là, et avec des évaluations de charges de fonctionnement, puisque les dépenses de fonctionnement sont bien au-delà que des charges de personnel, mais de tout ce qui touche au fonctionnement de ces services, c'est-à-dire le déploiement d'un service technique. Je vous rappelle que l'intercommunalité n'avait pas de service technique et qu'il a fallu le créer, le matérialiser, pour faire en sorte de pouvoir répondre aux besoins à la fois des déchets, mais des espaces verts, etc., que vous avez pu transférer. Et donc, on ne peut pas à la fois si vous voulez être gagnant et sur votre tableau municipal, qui consiste à dire on va faire en sorte d'évaluer pour que on puisse pas être impacté fortement par la communauté de communes dans la revalorisation de l'attribution de compensation, et en même temps que le travail comme il doit se faire, ben, il nécessite quand même que l'intercommunalité se structure pour pouvoir faire la mission pour laquelle vous avez transféré les services. Et donc, en effet, aujourd'hui, cette évolution d'un million d'euros d'augmentation en 2018 correspond à 90-95% des charges transférées. Et donc, je veux bien que vous disiez que les charges, les dérives des dépenses, comme vous le dites, il n'y a aucune dérive, il y a simplement des charges que les communes supportaient, qui sont désormais supportées par la communauté de communes. Et donc, comme je dis, on ne peut pas être gagnant sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois gagner sur, à l'échelle de la commune et gagner à l'échelle de l'intercommunalité, parce qu'il faut bien que quelqu'un paye à la fin. Sur la question des dérives de dépenses, vous parlez des déchets. Bon. Et vous évoquez un déficit de moins 600 000 euros, j'ai noté précisément ce que vous avez dit. D'abord, ce n'est pas très honnête de votre part, parce que l'évaluation des charges des déchets qui a été impacté par la suite, s'évalue à un déficit de moins 440 000 euros, et pas moins 600 000. Et dans ces 440 000 euros, monsieur Morand, puisque vous voulez qu'on parle précisément, il y a exactement 291 000 euros de collecte qui doit revenir à la communauté de communes et qui porterait donc un déficit à 100 000 euros au lieu de ce que vous venez de dire. Et je crois que c'est quand même plus honnête de le dire. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il y a un moment donné, quand même, sur la question des déchets, le déficit est dû parce que la CLEC n'a pas reporté l'ensemble des éléments pour lesquels vous avez acté ça, de mémoire, le 20 septembre de l'année dernière. 2017, pardon. Sur la question des subventions d'équilibre, vous dites un coup c'est 1 million, un coup c'est 1,05 million, mais écoutez, moi non plus, je vais vous redire ce que je disais tout à l'heure, mais c'est très difficile de connaître l'atterrissage final d'une année lorsqu'on prend des compétences, et c'est pour ça qu'il y a eu des évolutions entre des subventions d'équilibre qui peuvent bouger entre 1 million et 500 000 euros, mais parce qu'aussi, les prévisions que nous attendions dans l'évaluation des charges transférées, et là je fais le procès de personne, mais quand on est maire, on défend les intérêts de la commune, et donc on veut minimiser les charges pour faire en sorte qu'il y ait plus de reversement de l'attribution de compensation de l'interco à la commune. Mais ce qui veut dire que le fait d'avoir minimisé cette évaluation de charges fait en sorte que le service qui doit être rendu n'est pas le même. Et je veux prendre pour exemple les déchets, puisque vous parlez des déchets. Aujourd'hui, la ville de Bollène a un service voirie, propreté urbaine. Le service propreté urbaine, aujourd'hui, nettoyait les abords des points d'apport volontaires. Aucun agent de ce service de propreté urbaine n'a été transféré. Et donc, par conséquent, non, mais attendez, M. Morand, je sais que vous avez des réflexes de dire toujours non à ce qu'on dit, mais la vérité est celle-là, sur les abords des points de port volontaires, c'est votre service de propreté urbaine qui le faisait. Et aujourd'hui, s'il vous plaît. Attendez, je vous ai écouté, M. Morand. Donc, et aujourd'hui, le service déchets qui le prend. Et donc, aujourd'hui, le personnel n'ayant pas été transféré, la charge n'a pas été pesée, il convient à ce que la communauté de communes mettre en place un service sur ses fonds propres pour tenir propre les abords des points d'apport volontaires. Ce n'est qu'un exemple. Il y a un autre sujet, vous parlez de l'harmonisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. D'abord, ne faisons pas croire que c'est le contribuable pour partie qui paierait le service des déchets via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais que le reste, le contribuable ne le paierait pas. Parce que la réalité, ce n'est pas ça. Non, la réalité, ce n'est pas ça, monsieur. La réalité, c'est que ce qui n'est pas payé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est payé par le budget général, c'est-à-dire par le contribuable. Et donc, si vous avez 70% de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est assujetti sur une fiche d'impôt de l'ensemble des contribuables, mais les 30% sont payés par le budget général, dont le contribuable a à un moment donné aussi donné de l'argent pour le financer. Et donc, ce taux-là, faire croire que c'est une partie du contribuable, etc., c'est complètement faux, parce que ce soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou le budget général, à la fin, c'est toujours le même qui paye. Et c'est bien parce que c'est toujours le même qui paye, M. Morand, que nous avons lancé une politique ambitieuse de traitement et de collecte des déchets ménagers, dont il nous faudra d'ailleurs, et j'ai demandé à mes services de vous associer à la réunion du 20 mars en préfecture, voir comment on va déterminer l'exutoire de ces déchets, puisque vous le savez que Roussas aujourd'hui va s'arrêter, et qu'il y a donc intérêt à regarder précisément comment vont être traités les déchets. Sur la question des déchets, On ne peut pas. Aujourd'hui, il y a deux aspects. D'abord sur les containers et sur l'ensemble des poubelles. Vous aviez fait le choix, vous, d'être locataire, de louer ces containers de poubelles. Et nous avons fait le choix de les acheter. Non, mais attendez, mais monsieur Morand, vous êtes en train. Mais monsieur Morand, il aura la parole après. Non, mais je l'ai écouté, j'ai absolument rien dit. Sur l'ensemble des sujets aujourd'hui, il y aura de la revalorisation sur 3 ou 4 ans par rapport au fait que nous ne soyons portés acquéreurs de ce service-là. Ensuite, il y a un autre sujet qui est important. C'est que nous déployons des points d'apport volontaires sur l'ensemble du territoire et nous en déployons beaucoup plus que ce qu'il y en avait auparavant. Pourquoi ? Parce que nous avons fait le pari de réduire le tonnage des déchets ménagers, tonnage qui rapporte rien à la collectivité, et que, parce qu'une bouteille de vin, lorsqu'elle est finie, lorsqu'elle finit dans un sac plastique et qu'elle va à Roussas, ou lorsqu'elle va dans un conteneur à verre, elle ne rapporte pas le même prix à la collectivité. Et donc, nous souhaitons déployer les points d'apport volontaires sur l'ensemble du territoire, beaucoup plus, d'ailleurs, vous êtes en commission déchets, vous devez le savoir, pour faire en sorte qu'on puisse réduire le tonnage des déchets ménagers, augmenter les tonnages de filières comme les cartons, le verre, de façon à ce que la collectivité puisse toucher une rétribution de l'ensemble de cette valorisation des déchets dans les collectes. Et c'est un point supplémentaire de ce que nous proposons, nous, par rapport à vous. Et par ailleurs, il y a un développement sur les déchets qui est quand même beaucoup plus conséquent que ce que vous faisiez. Aujourd'hui, l'ensemble, vous parlez de votre commune, je vais parler de votre commune. Aujourd'hui, savez-vous que le lycée régional Lucie Aubrac existe depuis 2006 ? Est-ce que vous savez que dans ce restaurant scolaire, l'ensemble des élèves lycéens sont amenés à trier le plastique, le carton, dans des poubelles différentes ? Mais est-ce que vous savez la finalité ? C'est madame la proviseure Bianchi qui m'a dit qu'il faudrait peut-être qu'on s'y intéresse un petit peu. Depuis 2006, l'ensemble des élèves qui trient, finalement, chaque filière est remise dans le même sachet et est mise dans un conteneur de 600 litres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tri. Alors ça, vous me direz, c'est la région, etc., etc. Mais sur l'ensemble des écoles de la ville de Bolène, notamment sur la question du papier, il n'y avait aucune borne qui permettait de trier l'ensemble des déchets sur des sites qui relèvent de la collectivité publique. Et nous avons déployé des bornes pour recycler les déchets, notamment sur les papiers, parce que ça nous paraissait correctement. Et sur l'ensemble des collèges, le collège Paul-Éluard et le collège Boudon, aujourd'hui, établissent la même procédure. C'est-à-dire que la particularité, c'est qu'on fait trier les collégiens et les lycéens, mais que la finalité, c'est que le tri, finalement, se retrouve dans le même conteneur et est enfoui à Roussas, à l'exutoire, alors que ce plastique et ce carton devraient être valorisés dans des filières qui rapportent à la collectivité. Et c'est le pari que nous faisons avec la proviseure du lycée, avec les principaux des collèges et avec l'ensemble des directeurs des écoles, notamment de la ville de Bolène, puisque vous parlez de cette ville de Bolène, où ça va coûter certainement plus cher que quand vous l'exerciez, mais je pense que ça va être beaucoup plus valorisé parce qu'aujourd'hui, finalement, le papier partait au même endroit que d'autres déchets ménagers alors qu'il pourrait être valorisé. Donc c'est une vraie politique de déchets que nous menons. Faire réduire le tonnage des déchets ménagers, augmenter les filières de traitement pour faire en sorte que les marges d'économie que nous allons avoir par l'augmentation du tonnage du verre, du carton et du plastique nous permettent de pouvoir réinvestir sur d'autres apports de points d'apport volontaires et faire en sorte que finalement on ait aujourd'hui des recettes supplémentaires que celles que vous aviez en déployant de nouveaux PAV. Mais pour avoir des recettes supplémentaires, il faut à un moment donné mettre la main à la poche pour déployer des points d'apport volontaires. Sinon, je crains que les personnes ne puissent le jeter là où elles le veulent. Sur l'ensemble de ces sujets-là, sur le service qui s'est amélioré, je le disais, sur l'ensemble des attributions de compensation, je crois que c'est ce que vous évoquiez à un moment donné. Non, vous évoquiez à un moment donné sur la fiscalité de Bolène et la fiscalité économique et des ménages. Alors, vous nous faites un peu sourire quand vous parlez de la fiscalité des ménages à l'intercommunalité, puisque vous savez que le foncier bâti est à zéro, le taux. Vous savez que le foncier non bâti est à 1,14 ou 2,14 de mémoire. Et donc, aujourd'hui, ce qui rapporte 90% des recettes fiscales de cette collectivité, ce sont la fiscalité des entreprises. Et comme nous avons travaillé sur les bases mini de la CFE qui est à 32,5, nous avons fait en sorte de protéger les artisans et les PME et faire en sorte que les 10 majors de ce territoire
puisse contribuer plus lourdement à l'ensemble des projets et à l'ensemble de la fiscalité. Et ça me fait rebondir d'ailleurs sur la question de la ZAND qui a été créée en mai 2007 et qui depuis 2007 aujourd'hui a rapporté bien plus en fiscalité que ce qu'elle a coûté de remboursement du budget général vers le budget annexe de la ZAND, preuve s'il en était, même si je vous accorde très volontiers, M. Morand, et je crois qu'on en a déjà discuté, que le modèle économique qui avait été retenu sur la zone d'activité Notre-Dame était loin d'être exemplaire avec 1 euro l'entreprise, 1 euro la collectivité. Je crois que je m'en suis jamais caché. Et sur la zone de la croisière, on sera plus près des 25% ou des 30% que des 50%. Mais c'est un choix aussi que nous assumons, parce que nous faisons le pari que pour développer ce territoire dont vous passez votre temps à dénigrer notre gestion, eh bien, je vous le dis, nous faisons le pari que pour qu'il y ait des personnes qui puissent profiter des politiques publiques, il faut qu'il y ait des entreprises. Pour qu'il y ait des entreprises, il faut qu'on développe du foncier. C'est ce que nous faisons avec ces 7 hectares à la croisière. C'est ce que nous faisons sur le développement d'autres zones d'activité. Et c'est sur ce que nous faisons sur l'embellissement des politiques publiques transversales que nous développons. Et ça me fait rebondir sur celle que vous évoquez, c'est-à-dire l'investissement sur la piscine. Alors, vous n'avez vraiment pas de honte, M. Morand, de parler de la piscine. Parce que si on devait faire un audit, ce que nous avons fait sur la piscine, et si je vous disais le montant que nous devons investir pour remettre le bardage béton et les charpentes métalliques aux normes, nous en sommes à 2,6 millions. Et donc, moi, je veux bien que vous nous accusiez de dépenser. Certains nous disaient d'ailleurs à l'époque, Madame le maire, qu'on dépensait 0,93 euros par habitant et par an, que ce n'était pas normal par rapport aux collectivités qui se portent bien et qui ont des finances comme les nôtres. Désormais, on investit plus parce qu'on a des potentiels financiers qui sont supérieurs aux autres. Et par ailleurs, vous nous faites le reproche aujourd'hui de développer des politiques publiques sur lesquelles vous avez lâchement abandonné votre mission. Sur la question des écoles, oui madame, et sur la question de la piscine, j'ai pas honte de dire, et les directeurs le disent tous, et les parents d'élèves le disent tous, et l'ensemble des corps qui sont intermédiaires de l'inspection d'éducation, le directeur, le DDN, et l'ensemble du père professionnel disent combien, dans le remplacement de la chaudière dernièrement à Curie, sur le remplacement de la chaudière à Giono, sur la consolidation et l'isolation des Tamaris, combien il y avait des travaux à faire et combien nous avions intérêt à le faire. Et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous faisons dans les vacances qui vont arriver du mois d'avril sur l'ensemble des écoles du territoire, de façon à faire finalement ce que vous n'avez jamais su arriver à faire avec l'argent des contribuables. Sur la question et je vais revenir deux mots sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, parce que je l'ai noté, c'est vrai que c'est compliqué d'harmoniser une taxe qui part de 4,4% à 12%. Mais la politique que nous menons, qui à mon sens, celle de revaloriser le déchet de filière par rapport aux déchets ménagers, semble dégager des marges d'économie qui seront beaucoup plus intéressantes pour faire à la fin. Mais comme on a quand même 30 ans de retard sur les déchets sur notre territoire, où on a quand même des lycées qui, depuis 30 ou 40 ans, trient dans l'est de la France et chez nous, ils ne le font pas, eh bien, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire un choc fiscal, c'est-à-dire faire passer les lamotois de 4% à 10% ou de 4% à 8%, mais qu'on allait faire quelque chose de beaucoup plus, à mon avis, vertueux dans le cycle, dans l'économie circulaire, c'est-à-dire de faire en sorte de faire que, à terme, à échéance, l'ensemble des contribuables, à défaut de payer un taux fixe de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, quand bien même vous mettez jamais votre poubelle, quand bien même vous la mettez qu'une fois, quand bien même vous la mettez et il n'y a qu'une poubelle au fond ou qu'une feuille de papier, eh bien ne pas payer la même chose. Mais ça se fera dès lors qu'on aura dégagé des marges d'économie assez importantes, c'est-à-dire en diminuant le tonnage des déchets ménagers. Et donc on a un vrai pari et c'est pour ça que nous le faisons. Parce que l'exutoire aujourd'hui qui coûte 88 euros la tonne et dont je suis très attentif, si demain on part dans des syndicats départementaux ou autres, coûtera 118 euros la tonne. Dans les premiers estimatifs que j'ai eus. Et donc, quand on passe de 88 à 118, si on ne trouve pas des marges d'économie, je crains qu'à un moment donné, si la collectivité ne peut plus l'assumer, ce soit le contribuable qui le fasse. Mais je crois que les excédents de 12 millions que vous dénigrez prouvent quand même que la collectivité Rhône-Lès-Provence se porte bien tout en rendant l'argent à ceux et à celles, notamment les entreprises, qui lui donne. Et je vais revenir sur ce sujet-là. Vous parlez aussi de services mutualisés, et là je partage votre avis, Madame Ricard, je pense que l'intercommunalité s'honorerait d'une vraie politique intercommunale
de lecture, de médiathèque avec un vrai réseau, puisque ça fonctionne sur d'autres communes du territoire. Et on voit bien, quand on prend un livre à la Palue, on peut le rendre à Mondragon et on peut voir en ligne s'il est disponible ou pas. Je pense qu'il y a une modernité qui a été apportée sur ce service-là. Donc je rappelle que les communes qui ont souhaité ce service, notamment le relais d'assistants maternels, les lectures publiques et puis l'école de musique, aujourd'hui participent financièrement au développement, tout comme la facturation du faux-cardage, et puis d'autres sujets qu'évoquait le vice-président Jean-Louis Grappin. Enfin, sur le pôle médical, docteur, j'entends ce que vous dites. C'est un pari un peu osé qu'on a fait avec ma collègue Laurence Desfonds, qui n'est pas là aujourd'hui, et l'ensemble des élus de la majorité, sur le fait de pallier finalement ce que la ville ne voulait pas faire. Et je crois qu'il faut se le rappeler. Je crois avoir lu dans la presse plusieurs fois que cela relevait du privé que d'accompagner l'implantation des médecins généralistes. Et c'est bien parce que justement certains ont encore lâchement abandonné leur mission que nous avons pris à cœur, vous n'avez pas la parole, nous avons pris à cœur ce sujet-là. Donc sur le pôle médical, moi j'ai espoir que dans plusieurs années, une association de médecins qui se sera installée dans ce pôle reprenne la gestion en direct. Parce que je partage l'avis de ceux, notamment du vice-président du SAR, qui dit que ce n'est pas à la collectivité publique que d'accompagner, je dirais, le business d'un médecin. Mais quand on est dans une compétition des territoires, où vous avez 4000 docteurs en moins par an qui ne sortent plus des facultés de médecine, eh bien, ils préfèrent Lyon, la Côte d'Azur, Marseille, d'autant plus que les facultés de médecine sont aux abords de ces grands pôles-là. Je vous laisserai la parole après, mes docteurs. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, nous puissions nous différencier sur l'attractivité des médecins. Donc, deux mots vous dire que, en effet, l'abattement de 30% uniquement pour les médecins généralistes, vous l'avez compris, permet aujourd'hui à certains médecins de s'intéresser. Vous dire aussi que le docteur Pujol et le docteur Vernois, même si je sais que certains refusent à l'entendre, elle le dirait mieux que moi, puisqu'on les a vus dernièrement, et elles me l'ont dit, si on n'avait pas proposé cette alternative, elle serait partie vers Avignon, parce qu'aujourd'hui, elle n'était plus en capacité, en termes de sécurité, d'exercice de la profession, avec le paiement de la secrétaire, avec les charges de l'URSSAF, avec le paiement de la femme de ménage, etc., de se consacrer pleinement à la médecine, ce que nous proposons, en les laissant se consacrer pleinement à la médecine. Aujourd'hui, 3 médecins sont identifiés, puisque nous avons adhéré à Rempla France, qui est le site qui aujourd'hui travaille avec les médecins remplaçants qui pourraient demain être intéressés, en plus de faire du remplacement, de venir s'installer notamment pleinement sur ce sujet-là. Vous dire aussi que c'est assez compliqué, mais que finalement la profession de médecin, c'est une profession libérale que nous respectons. Et donc c'est vrai que certains médecins, notamment féminins, préfèrent se consacrer le mercredi à leur enfant ou autre. Et donc, ça peut poser des difficultés sur les offres de médecins sur le territoire. Nous réfléchissons, je vous le dis, puisque nous avons pu travailler sur des paraprofessions ou des professions qui ne sont pas celles de la médecine générale, sur des infirmières qui nous rejoindraient, puisque j'ai signé le bail la semaine dernière, et sur l'orthophoniste qui pourrait créer un pôle enfance intéressant. L'orthophoniste qui avait fait une publication dans la presse et qui se plaignait des conditions d'accueil et pour lequel nous avons pu trouver, au regard de la superficie d'un bureau, la possibilité de venir s'installer et qui pourrait donc, avec le pédiatre, constituer un pôle enfance. Et nous voulons aussi aller beaucoup plus loin, puisque nous sommes en contact, notamment Laurence Desfonds, avec le docteur Richard, qui part en février ou mars 2020 de notre territoire pour pouvoir l'accompagner. Nous savons aussi que les docteurs Perche ont apporté un bien précieux sur la radio. Donc nous sommes en train de réfléchir à une plateforme radio pour faire en sorte de pouvoir être complémentaire avec les objectifs de l'Agence régionale de santé. Mais par ailleurs, en lien avec l'Agence régionale de santé et le docteur Roussier, qui s'est porté volontairement signataire d'un projet de santé sur ce pôle médical,
nous allons pouvoir déployer une complémentarité entre les médecins généralistes et docteur Chambon. Les généralistes qui pourraient être aujourd'hui dans l'exercice de cette profession de médecin généraliste avec l'EHPAD qui sortira en début d'année 2020 pour apporter une complémentarité à ces 97 résidents en lien avec le pôle médical intercommunal qui pourrait héberger, voilà. Et c'est ce projet de santé que nous sommes en train de porter auprès de la ministre de la Santé pour faire en sorte qu'un médecin généraliste plus un paramédical doivent porter ce projet de santé pour faire en sorte d'apporter cette complémentarité. Nous avons l'année 2019, ce que je disais au service de Rennes-Provence, pour le déployer, ce projet de santé, parce que si nous ne le faisons pas, l'arrivée de l'EHPAD en 2020, nous ne serions pas prêts à déployer l'offre de médecins généralistes. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur le pôle médical. C'est un pari qu'on a pris, qui est en train de prendre forme, dont on aurait pu dire... les médecins gagnent assez pour s'installer tout seuls, comme je l'entends à longueur de journée. Moi, je fais le pari que dans la compétition des territoires, si on n'apporte pas quelque chose de structurant et qu'on n'apporte pas quelque chose de complémentaire, c'est ce que le docteur Houssier a partagé avec moi et c'est pourquoi nous sommes partis dans la même direction, fait en sorte qu'on puisse accompagner l'implantation de médecins généralistes et je m'en réjouis. En ce qui concerne, et je finirai là, sur le rapport de fiscalité locale et de reversement de la communauté de communes, aux communes. Je pense que c'est important de préciser puisque dans ces débats d'orientation budgétaire, on entend toujours finalement que l'intercommunalité lèse la ville de Bolène et donc je veux ici reformuler mon propos. Aujourd'hui, les entreprises rapportent, je le disais, dans la fiscalité, 90, 95%, 92 exactement, de fiscalité du territoire, c'est-à-dire que toutes les recettes fiscales proviennent globalement des 10 majors que nous avons sur ce territoire. Et donc la fiscalité que reversent les entreprises à la communauté de communes représente pour la ville de Bolène, M. Morand, 13 406 000 euros, ce qui fait dans un ratio... Alors, il y a une différence qui s'explique à une époque parce qu'il y a eu la TASCOM et la CVAE qui avaient un peu baissé, mais on avait eu l'augmentation de la CFE et de l'IFER, ce qui fait qu'on se retrouvait dans des taux entre 13 406 où ça peut fluctuer. La fiscalité par habitant s'élève donc à 968 euros par Bolénois. Si c'est ça aujourd'hui ce que rapportent les entreprises bolénoises, qui, rappelons-le quand même, je pense, notamment sur les 10 majors, ne font pas travailler que des Bolénois et font travailler largement beaucoup de monde, même dans la Drôme provençale, même dans l'Ardèche. Les reversements de la communauté de communes Rennes-Lès-Provence à Bolène dans les attributions de compensation, c'est les chiffres de 2018, c'est sur ceux que vous travaillerez dans la collecte demain, représentent 12 263 000 euros, ce qui représente plus d'un million d'euros tous les mois que l'Interco reverse à la commune de Bolène. Se rajoute à ça la dotation de solidarité communautaire, et vous dites que les dépenses s'envolent depuis 2014. Je veux simplement vous rappeler, monsieur le vice-président, que en 2014, la dotation de solidarité communautaire était de 600 000 euros de mémoire et qu'elle est aujourd'hui de 3,4 millions. Et que quand on passe de 600 000 euros à 3,4 millions, pour justement conforter les politiques publiques des communes, puisqu'on aurait pu rester à 600 000 euros, mais à 3,4 millions, c'était l'objectif, en plus des fonds de concours, d'apporter un soutien financier au développement de politiques publiques de maîtres d'ouvrage que sont les communes. C'est un pari que nous avons fait au regard de l'absence du transfert de la compétence des écoles. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est important de le préciser. Et nous vous reversons sur ces 3 millions de DSC, 1 638 000 pour l'année 2018, ce qui veut dire que dans les reversements simples, si on ne regarde pas tout ce qui est fait en parallèle, le pôle médical, etc., de réinjecter de l'argent dans la fiscalité des entreprises, de la fiscalité des entreprises au budget de la ville, on est à 13 901 000, c'est dans les tablettes, hein, vous pouvez le voir. Donc ce que veut dire qu'on en est déjà dans les reversements de la communauté de communes à Bolène de 1004 euros par Bolénois. Ça veut dire que quand bien même on ne fait pas d'investissement de politique publique, c'est-à-dire sans compter l'euro qu'on met pour retaper la piscine, les écoles, etc., on est déjà supérieur à ce que rapporte la fiscalité des entreprises par habitant à Bolène. Et à cela s'ajoute, quand même, mais vous avez une mémoire sélective, 3 103 000 euros de fonds de concours,
dont vous avez, on vous a versé 900 000 euros en 2018. L'ensemble des travaux dans les écoles, on est aujourd'hui de l'ordre de 450 000 à 500 000 euros réalisés à ce jour. Les travaux de la piscine, je parlais de 2,6 millions qu'il faudra budgéter, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce béton poreux fait passer le chlore, ce chlore rencontre les armatures métalliques, et dès lors que ça bouge, l'armature béton mérite quand même qu'on la consolide. Et donc, ça mérite qu'on s'y intéresse fortement, et c'est ces 2,6 millions que l'audit technique que nous avons demandé, dont nous avons eu les résultats, nous permet l'apporter. Il y a le haut débit. Le haut débit, on était à 3,6 millions, on est passé à 1,8 millions, mais sur le 1,8 million, M. Morand, il y a 974 000, rien que pour Bolène, soit plus de la moitié du programme. Il y a une deuxième salle de cinéma, 1,2 million, il y a un projet de maison du terroir et d'office de tourisme, 1,8 million, il y a 700 000 euros d'acquisition de commerce, que ce soit Baroux et le Flamenco, il y a 3 millions sur la zone d'activité de la croisière, le vice-président Grappin le précisait, il y a 1,8 million de ZAC par Europarc, M. Morand. L'intercommunalité va vous faire un chèque de 1,8 million à la ville de Bolène pour acheter les parcelles de la ZAC que le contribuable, et là ça ne vous effarouche pas, que le contribuable depuis mars 1994 est payé une première fois à la CEMAVA les terrains, une deuxième fois à la CEMIB, et puis une troisième fois, mais madame vous n'avez pas la parole, et une troisième fois quand la CEMIB a vendu à la ville de Bolène, et une quatrième fois la ville de Bolène 1,8 million à la communauté de communes, là le contribuable est vraiment respecté. Enfin, 1,2 million sur les zones de Servat et du Sactar que nous avons lancées et dont les travaux ont commencé, et enfin 2 millions d'euros sur le Lez, puisqu'aujourd'hui, c'est 2 millions d'euros que la ville aurait dû payer directement au travers du programme d'investissement sur la protection de la ville de Bolène, dont on attend depuis 30 ans les travaux, sont à la charge sur cette année, à hauteur de 2 millions d'euros, de la communauté de communes. Et au passage, nous n'avons pas retenu 2 millions d'euros d'attribution de compensation, parce que les investissements, la règle a été fixée à ce qu'ils n'apparaissent pas dans la commission locale d'évaluation des charges transférées. Mais ce qui veut dire que dans votre budget 2019, Madame le maire, si on avait dû prendre en compte 2 millions de travaux du Lez, vous auriez 2 millions en moins dans vos dépenses d'investissement. Soit au total 20 321 000 euros, ce qui fait 1 468 euros par habitant, plus les 14, ça fait aujourd'hui 34 millions d'euros. Alors moi, je veux bien qu'on dise à longueur de journée que l'intercommunalité vole l'argent des Bolénois, mais je crois que tous les projets structurants aujourd'hui que nous portons dans le champ des compétences qui nous sont affectées se trouvent à Bolène, bizarrement, et nous le faisons bien volontiers parce que, comme vous, Monsieur Morand, je suis élu de Bolène. En ce qui concerne... J'ai pas fini, madame, je vous laisse la parole volontiers après. Non, mais j'ai pas fini parce que, si vous voulez, vous dites tellement de mensonges, Monsieur Morand, que je suis obligé de vous corriger. Et vous avez l'occasion de parler après, bien évidemment, si vous le souhaitez. Donc, contrairement au tableau noir que vous êtes en train de fixer, Monsieur Perron, s'il vous plaît, sur ces finances qui seraient catastrophiques, qui ne permettraient pas, etc., on voit bien aujourd'hui qu'on est très, très loin du tableau noir que vous voulez faire. Nous avons un excédent de clôture de 12 millions d'euros. L'année dernière, la ville de Bolène, sur son excédent de clôture, était à moins 40 000 euros. C'était beaucoup plus dramatique que l'intercommunalité, et nous en avons fait beaucoup moins. Madame le maire.
De quelques chiffres, hein. Sauveteur de Bolène, parce que franchement, vous faites rigoler. En frais de fonds, en dépenses pour le Lez, sur les années que nous avons cotisé, on a versé 4 millions d'euros pour 0 euro de travaux, juste pour du fonctionnement, comme d'habitude, comme votre gestion.
Comme d'habitude, comme votre gestion.
Ça part en fonctionnement, comme on vient de le voir sur votre budget. Vos frais de fonctionnement sont exponentiels, vous ne pouvez pas le nier. Et si vous avez préparé vos réponses comme ça, monsieur, c'est parce qu'à la commission des finances de Bolène, on vous a donné l'analyse ici de votre propre DOB, ce qui vous a énervé d'ailleurs en conseil municipal, mais qui vous a bien servi pour reformuler votre débat d'orientation budgétaire, car il ne devait sûrement pas être comme ça. Premier point. Donc pour le Lez, monsieur, nous avons déjà versé plus que ce que les travaux vont coûter.
Il a manqué.
Plus que ce que les travaux ont coûté, monsieur. 4 millions d'euros pour rien. Pour du fonctionnement bidon. Et en particulier pour payer, on voulait me faire payer un procès qui ne concernait pas Bolène, mais qui concernait votre gestion de socialo machin. Alors, non, non, mais vous pouvez... Oh, mais c'est la vérité.
S'il vous plaît, s'il vous
plaît.
C'est
la vérité.
Allez-y.
C'est la vérité.
S'il vous plaît.
Monsieur l'a répété. Ça fait 30 ans qu'on attendait les travaux. Bolène.
S'il vous plaît, madame Bompard, finissez. Monsieur, Bolène, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur.
Vous vous vantez d'avoir versé 2 millions. On en avait versé 4 avant même que vous vous occupiez du dossier du LES, ce qui n'avait été pas fait par vos collègues pendant qu'ils avaient la majorité. Sur la ZAND, monsieur, à vous entendre, c'est parfait. Sauf qu'il y a des problèmes. Quand vous avez annoncé 200 emplois sur Rolls-Royce, monsieur Morand est allé voir. 20 emplois. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous entend parler. Je fais le pari de ceci, je fais le pari de cela. Vous avez fait le pari il y a quelques mois d'aller voir. Vous êtes allé voir les universités médicales de médecine. Vous allez voir ce que vous allez voir. Aujourd'hui, vous faites le pari qu'un tel va venir. Bon, c'est toujours des paris. Vous pariez sur le traitement du papier. Vous pariez. On a entendu 4 ou 5 fois. C'est-à-dire, oui, vous pariez, mais vous ne faites rien. Et quand je dis vous ne faites rien, vous ne faites rien. Or, c'est vrai qu'il est inquiétant, et le seul chiffre, et vous pouvez en fumer tout ce que vous voulez, le seul chiffre à retenir, c'était effectivement 6 679 000 d'épargne brute en 2014, quand vous êtes arrivé, et aujourd'hui, 620 000, parce que moi, je ne joue pas à ce jeu du négatif de 40 000 euros. Parce qu'on pourrait jouer sur ce chiffre-là. Et vous seriez à moins de 320 000 euros.
Pas sur l'accident de clôture, madame.
Si, monsieur.
Ne parlez pas de la même chose.
Mais si, monsieur.
Parlez de l'épargne nette.
Quant aux chiffres que vous annoncez demain, quand vous serez à la CLECT, que vos collègues seront à la CLECT, et qu'il y aura vraiment une vraie discussion, pas une discussion de tribune, une vraie discussion concrète, vous verrez que vos chiffres sont erronés et que nous avons les réponses à tout ce que vous avancez. Ça, c'est un autre point. Je n'ai rien fait pour la médecine, monsieur, mais je rappelle que vos collègues, dont c'était la compétence première au conseil départemental, je parle de monsieur Haut, de monsieur Lambertin, etc., ont toujours, sur vos collègues, monsieur, vous êtes sur la liste, ont refusé de donner à Bolène, la part qu'il revenait pour l'EHPAD. Et si ça n'est pas la ville que je dirige qui mette 1,2 million de concret pour démarrer les travaux, eh bien, rien ne se ferait. Et ça, c'est du concret. C'est pas du pari sur l'avenir. Il sort l'EHPAD. Et je ne suis pas obligée de faire des cadeaux à ce sujet. J'ai travaillé avec les collectivités et nous avons sorti à ce sujet. Et ce n'était pas ma compétence, ça non plus, monsieur. Mais je prenais la place d'une collectivité défaillante qui était celle de vos amis. Alors, je ne peux pas prendre, effectivement, toutes les collectivités défaillantes à notre charge. Parce que François Hollande s'était bien débarrassé sur nous, déjà, d'un certain nombre de sujets, tout en retirant l'argent. Et je crois que mes collègues ne peuvent pas dire le contraire, parce qu'on nous demande de faire de plus en plus, en nous enlevant beaucoup plus. Et vous êtes de cette politique-là. Alors, ça, ce sont des mises au point. Ensuite, sur la piscine. Mais monsieur, la piscine, ça fait 10 ans que je suis là. Alors, qu'elle soit à refaire, c'est tout à fait possible, monsieur. Elle a 45 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai créée. Vous ricanez en annonçant qu'il faut la refaire, comme si j'avais fait une piscine moi-même et que j'ai fait des erreurs. Ce n'est pas moi. Elle est vieillissante. Nous avons investi dans les joints époxy dès que je suis arrivée et pour des montants extrêmement importants. Ensuite, la lotionnelle, monsieur. Elle est comme dans toutes les piscines, il faut la surveiller constamment. Mais nous n'avons jamais eu un accident ni un problème. Et si, comme vous le dites, les populations, parents, inspecteurs, etc., c'était émus, mais je présume que je n'aurais même pas été réélue. Je n'aurais même pas fait 10%, monsieur. Or, je vous rappelle une fois de plus que la fréquentation, comme celui de l'Office du tourisme, la fréquentation de la piscine, était maximale, puisque nous recevions des clubs de l'extérieur. Voyez ? Donc, et qu'on n'a jamais eu de problème, que les créneaux étaient totalement pris et sans problème, comme l'Office du tourisme, parce que là aussi, les chiffres sont parlants. Vous faites plus cher et moins bien. Et je voudrais terminer, monsieur, sur un peu de... pour rappeler un peu de modestie. Lettre du 5 novembre 2018, qui émane de la préfecture, adressée à la communauté de communes Rodez-Provence, et qui fait une remarque suivante. Chaîne de production sur la cuisine centrale. Hein. Chaîne de production insuffisamment maîtrisée, en particulier les températures favorisant la prolifération microbienne non conformité à l'arrêt du 21 décembre 2019 et au règlement cité. Ensuite, entreposage des denrées favorisant les contaminations non conformité au règlement. Et il donne les numéros de règlement. Ce courrier a valeur d'avertissement. Il vous appartient de mettre en place les actions correctives nécessaires à une mise en conformité et notamment remplacement des équipements défectueux. Et ça, monsieur, ça fait quelques années que c'est à l'Interco aussi. Mmh. Ça fait maintenant 4 ans que vous êtes là. Alors, vous allez avoir la réponse.
Non, mais
ça, pourquoi l'avez-vous pas publié
je vais vous répondre.
Autant de fois que ce que vous en avez parlé de la Légion et qui n'a rien coûté à aucune personne. Voilà.
Bien.
Et là, les parents, vous pensez qu'ils se sont pas émus?
Oui.
L'inspecteur d'académie s'est pas ému? Alors, s'il vous plaît, arrêtez de parier. Retenez ce chiffre. Retenez ce chiffre. Nous sommes dans le mur avec vous, en 4 ans. Mais vous verrez, l'année, monsieur, va vite passer. Mmh. Vous êtes à la fin du mandat et vous n'aurez rien fait. Parce que vous avez voulu des compétences. Vous vous moquez de moi parce que je n'ai pas passé de compétences. Mais je n'ai pas passé de compétences parce que la principale, et je l'ai dit 100 fois, mais vous êtes embourbé dans votre gestion catastrophique. Et il me tarde que des personnes extérieures se penchent sur votre gestion. Je l'appelle de tous mes voeux. Parce que je n'ai jamais écrit à la préfecture. Mais là,
S'il vous plaît.
Et là, nous écrirons et nous attirerons l'attention de la préfecture sur vos manquements. Parce qu'ils sont chiffrés et incontournables.
Bien. Bien, écoutez, je vais vous répondre. Ça me donnera l'occasion de répondre à Mme Calero, parce que je crois que je n'ai pas répondu à Mme Calero sur la question du tourisme, et vous m'avez fait remarquer que je ne l'avais pas fait, donc je vais le faire. La question d'un responsable politique, c'est pas d'être au courant de tout au moment où ça se passe. La responsabilité du responsable public, c'est de faire en sorte que s'il y a, comme vous le disiez dans ce courrier du 5 novembre 2018, dont je pense que les services de l'Interco se souviennent, c'est de faire en sorte que dès la semaine qui a suivi, de mettre en place des contrôles et de durcir les procédures de mise en mise sous pli ou sous vide de l'ensemble des denrées. Et sur ce question-là, sur le 5 novembre 2018, pour ce cas-là bien précis, ça a été régularisé dans la semaine qui a suivi. C'est pas le cas de la Légionnelle. C'est pas le cas de la Légionnelle, madame. Parce qu'on a une analyse, mais non, il y a une analyse du mois de mars. Non mais madame, il y a eu les analyses du mois de mars, mais j'ai eu les analyses par la société qui entretenait la piscine de Bolène. Et le taux de légionelle a augmenté en 3 mois, entre le mois de mars et le mois de juin, alors que vous aviez été alerté en mars. Et donc, je peux facilement comprendre que ce n'est pas de votre faute que la légionelle soit dans la piscine. Comme ce n'est pas la faute de Zilio, de l'activité microbienne dans un frigo. Mais par contre, c'est de la responsabilité, madame le maire, de la réaction du décideur public à faire en sorte d'apporter des actions correctives à un taux qui est extrêmement élevé. Et je sais que ça vous dérange, madame. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Par ailleurs, vous êtes aujourd'hui... Dans la question de toujours revenir sur les mêmes sujets. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes très prévisible, parce que la question de la ZAND, je crois qu'il n'y a pas eu un conseil communautaire où vous ne l'avez pas évoqué. Oui, mais la salle des fêtes a coûté beaucoup plus cher. Madame, vous n'avez pas la parole.
Vous n'avez pas la parole, Madame le maire. Je sais que ça vous dérange, mais je veux simplement... Mais attendez, s'il vous plaît, Monsieur Dussard. Madame Bompard, vous n'avez plus la parole. Bon, moi je dis simplement qu'aujourd'hui, sur l'équipement que vous avez fait financer, puisque vous me demandez mon avis, je pense qu'il a coûté extrêmement cher pour apporter très peu, et que la ZAND de Mondragon, au contraire, a dépensé très peu et rapporte beaucoup par rapport à ce qu'elle a été dépensée, parce qu'il y a de la fiscalité des entreprises sur ce territoire qui rapporte beaucoup aux recettes de la collectivité, ce qui n'est pas le cas de la salle des fêtes, qui ne rapporte absolument aucune, à part la billetterie, ne rapporte absolument rien à la collectivité. Ça, c'était le premier point. Sur le second point, c'est-à-dire l'office de tourisme intercommunal. J'ai oublié de répondre à Mme Calero, je m'en excuse, je vais le faire maintenant. D'abord, je pense que ce que vous comparez n'est pas comparable. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de le croire. D'abord, parce que je pense que le personnel que vous aviez à l'Office de tourisme, dans les années qui ont précédé le transfert de la compétence tourisme, ne sont pas les mêmes que ceux que vous nous avez transférés. Et je voudrais dire que, par exemple, Madame B, je ne veux pas la citer, mais Madame B, non, mais attendez, Madame, mais vous êtes désagréable. Je sais que vous avez l'habitude de parler pour tout le monde, mais ici, on s'écoute. Sur la directrice de l'Office de tourisme, qui aurait pu être transférée, qui n'a pas été transférée, parce que le choix du maire a fait que ce soit un autre agent, le sien, très bien. Eh bien, la personne qui a été transférée, aujourd'hui, n'est plus au tourisme. Parce qu'elle a reconnu très facilement qu'elle avait fait les services techniques, qu'elle avait dirigé un centre technique municipal, mais que la compétence du tourisme n'était pas la sienne. Alors ce qui a coûté cher, ce n'est pas forcément que nous recrutions quelqu'un de plus, c'est que vous ayez mis quelqu'un qui n'avait jamais, ou pour partie très peu avant le transfert, une compétence pour laquelle il n'avait pas la compétence pour le faire. Et il l'a reconnu très bien et très volontiers en disant « Monsieur Zilliot, mettez-moi ailleurs parce que je ne sais pas faire ». Donc c'est ça qui est le beaucoup plus regrettable. Et je le redis, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Vous avez peut-être par ce transfert-là, quoique voyant la masse salariale que représentait l'ensemble du transfert, pas beaucoup gagné d'argent, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez mis des personnes qui n'étaient pas appropriées au service rendu et qu'il a fallu, à un moment donné, pallier à ce manque-là. Et donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que vous évoquez sur les chiffres. Eh bien, cette même personne, puisqu'elle a été transférée, quand on lui a parlé de la méthode de calcul du passage dans l'Office de tourisme, qu'est-ce qui était pris en compte ? Eh bien, un appel téléphonique valait autant qu'un passage physique dans l'Office de tourisme. Or, nous comptons que les passages physiques, nous ne comptons pas les appels téléphoniques. Et donc, c'est très difficile de comparer appel téléphonique plus passage physique dans un office de tourisme et de voir aujourd'hui des personnes qui doivent passer sûrement autant que ce que vous faisiez à l'époque, mais qui, comme on ne prend pas en compte les appels téléphoniques à l'office de tourisme, font qu'il y en a un peu moins, je vous l'accorde, mais la méthode de calcul n'était pas du tout la même. Et ben oui, mais parce qu'on compte pas la même chose. Et donc c'est très compliqué. Et c'est la même personne qui le disait. Nous, on nous avait demandé de. Et donc très bien, mais bon, si on est dans un espace qui accueille du public, je pense qu'il est plus honnête de compter les personnes physiques qui se présentent plutôt que les appels téléphoniques, surtout si ça provient de services émanant de la ville ou autre, juste pour étoffer des chiffres qui sont faux par naissance. Enfin, vous parlez de recopier, madame. Mais nous, notre politique, c'est pas de recopier. Parce qu'on n'a absolument aucun intérêt à vous recopier, vu la gestion catastrophique que vous faites de ce que vous êtes en train de mettre en place. Par contre, je crois que, Monsieur Rafinesque, s'il vous plaît, sur la question du déploiement de la politique touristique, on a commencé avec un lourd handicap. Un très lourd handicap, parce que finalement, ce qu'on vous disait, nous avons dû refaire les plaquettes, nous avons dû refaire l'ensemble des documents que nous n'avons pas eus, et nous sommes même allés au tribunal, et nous avons gagné par deux fois, pour que le point infotourisme soit finalement réellement affecté à la compétence qui était première, c'est-à-dire celle du tourisme, et pour lequel, madame, vous avez daigné et ne pas donner les clés jusqu'au dernier moment. Et c'est le juge qui vous a demandé de nous rendre les clés en mettant sous astreinte par jour de retard donné. Et c'est ça que vous dites, l'élan, la mutualisation des directions de services, etc., alors que vous avez fait de l'obstruction sur cette compétence depuis le début du transfert.
Sur la question des services, vous savez, c'est pas une question, moi j'ai pas pour vocation de m'immiscer là où ça fonctionne, et je vous le dis très, très officiellement et plus devant la presse. La fête de la musique à Bolène, c'est pas la fête d'Anthony Zilio, hein. La fête de la musique à Bolène, c'est une fête de la musique que nous avons créée parce qu'il y avait un vrai manque et il y avait un vrai besoin des commerçants. Et si demain Zilio ne doit pas la créer ou l'animer, ben Zilio ne le fera pas tant qu'elle existe encore. Et par ailleurs, vous devriez vous intéresser fortement à la foire de la Saint-Martin, puisque vous l'avez évoqué, qui est un vrai désastre depuis de nombreuses années et qui perd de nombreux forains, qui allait jusqu'au rond-point de l'autoroute et jusque devant la poste et qui s'arrête maintenant devant le rond-point Mitterrand et qui va jusqu'à l'ancienne torréfaction alors qu'il allait à l'ancien service technique et que maintenant il s'arrête devant la boulangerie Servoz, boulangerie dont ils ne prennent même plus la peine de venir à cette foire tant elle a perdu son âme. Moi je veux bien que vous me donniez des leçons quand elles sont... comme vous m'avez dit la dernière fois sur la DSC, revoir les indicateurs, bien volontiers, je pense que vous avez raison, et là-dessus je fais amende honorable en disant peut-être que c'est intéressant de regarder la pauvreté. Mais lorsque vous venez nous chercher sur des sujets dont on n'en a rien à faire, moi la fête de la musique, j'en ai absolument rien à faire à Bolène. Je la fais parce que c'est une demande des citoyens, et je trouve que ça a été un véritable succès, et si c'est Marie-Claude Bompard qui l'organise, ça me va très bien, pour peu qu'elle soit organisée pareil, qu'elle ait le même résultat. Mais je m'interroge sur ce que vous gérez aujourd'hui, qui est un vrai désastre, notamment la foire commerciale de la Saint-Martin, dont vous devriez, mais vous allez mettre le paquet, c'est la dernière année. J'ai confiance en vous en 2019 pour faire en sorte que cette foire soit beaucoup mieux que les 10 dernières années, j'en doute pas un seul instant. En ce qui concerne les créneaux d'Aquarelax et de ce que vous dites sur la piscine, ces créneaux existaient. Et donc, par conséquent, il continue d'exister. Sauf que la gestion de l'équipement a été transférée. Et donc, la collectivité assure ses aquarelax. On a trouvé un terrain d'entente avec la présidente du CNVB qui fait qu'en plus d'apporter un créneau d'aquarelax qui coûtait 115 euros par an, on l'a à 32 euros par an en étant inscrit à la communauté de communes. Là aussi, on a vraiment apporté un nouveau service sur ce sujet-là. Et donc, nous n'avons pas vocation à recopier si bien, que dans la maison du terroir, il était prévu une salle d'exposition qui aurait pu faire doublon avec la salle Ripper que vous gérez. Et donc, j'ai demandé au service de retirer la salle d'exposition parce que dans un territoire normal où la ville n'affronte pas l'intercommunalité, je pense qu'il y a des politiques publiques partagées qui sont intéressantes, notamment celle de l'exposition de vernissage, qui mériterait d'être mutualisée. Je sais que ce n'est pas encore dans votre état d'esprit, mais je pense que prochainement, Bolène redeviendra. En ce qui concerne sur le sujet que vous évoquez et qui me semble assez malhonnête sur la question de la santé, je dis malhonnête parce que vous avez eu, et le docteur d'ailleurs, je ne veux pas le prendre à témoin, mais s'il est venu me voir, le docteur Houssier, à un moment donné, c'est parce qu'il m'a dit, lui qui voulait faire un pôle médical au centre Brassens et qui voulait le développer sur le territoire, m'a dit, président, il faudrait que vous accompagniez le développement des politiques de médecins parce qu'aujourd'hui, personne ne le prend à cœur. Et si on ne le prend pas à cœur, on risque de voir dans les 10 premières années des médecins partir. Et c'est pour ça qu'il a bien volontiers voulu porter ce projet de santé, puisque je ne suis pas médecin, jusqu'aux dernières nouvelles, et que par conséquent, c'est un médecin qui doit le porter, et il a bien voulu le faire dans l'intérêt du territoire. Donc vous voyez, madame, on est loin de cette petitesse d'esprit qui consisterait à dire on fait parce que vous avez fait ou on aimerait bloquer pour pas que ça se fasse, etc. Je crois que le territoire et les habitants méritent bien mieux que ça. Et si c'est pas l'intercommunalité qui porte des projets structurants et que c'est une autre collectivité, eh bien on s'en réjouit et on essaie d'apporter de la complémentarité aux politiques publiques, ce que vous refusez de faire depuis maintenant 10 ans. Madame Fournier.
Moi, je voulais répondre à ce que vous venez de dire. Donc, déjà, pour vous éclaircir, la foire, si elle a diminué en superficie, ce n'est pas par un manque d'attrait, c'est simplement pour des moyens de sécurité. Je pense que si quand vous allez organiser celle à Palu, vous verrez que vous êtes contraint à de fortes demandes de la préfecture. Quant au projet explosif de cette année, parce qu'on est en 2019, mais je tenais quand même à vous signaler qu'on est en année électorale et qu'on ne pourra pas faire de projet électoral
explosif, comme vous dites, on n'a pas le droit. Donc déjà, vous dites des bêtises.
Je répondais à ce que
vous
disiez.
Après, pour les chiffres de l'Office du tourisme, donc, vous dites que les appels téléphoniques, on avait demandé donc, à cette personne, donc, je suppose que vous parlez de M. B., de tenir compte des appels téléphoniques. Moi, j'ai les chiffres depuis 2012 où il y avait des passages physiques. Donc en 2012, on avait quand même 10 063 visites physiques à l'Office du tourisme, PIT et Office du tourisme. Réunis. En 2013, 10 399. Et là, il n'y avait pas M. B. Voilà. Et après, quand vous dites qu'on vous a transféré donc M. B. et qu'il ne connaissait rien au tourisme, je veux quand même vous tenir à vous signaler qu'il était responsable de l'office du tourisme au TAI. Voilà. Merci.
Il était associatif au TAI.
Associatif, oui, mais associatif
moi,
ou pas.
Moi, je communique avec des gens, je ne suis pas directeur de la communication.
Merci, mais de toute manière, il n'est peut-être pas directeur, il est peut-être associatif, mais en attendant, il ne connaît pas rien au tourisme.
Bien, on va clôturer ce débat. Alors, M. Morand, vous avez été mis en cause, je voulais répondre vous bien volontiers.
Oui, très brièvement, puisque j'ai été mis en cause. Mais voilà, dans tout ce que vous avez dit, c'était assez surprenant. Est-ce que nous sommes en période électorale, qu'il y aura des gens suffisamment malhonnêtes pour véhiculer ces contre-vérités et d'autres suffisamment naïfs pour les croire? Mais moi, voyez-vous, je ne crois pas que les gens arriveront à croire tout cela. Par exemple, vous venez de nous dire les appels téléphoniques étaient certainement dus aux services ou aux élus même qui appelaient pour faire remonter le chiffre. Alors ça, si vous l'avez dit, c'est enregistré. Alors là, celle-là, elle est forte. Non, voilà. On fera jamais mieux. Je voudrais.
Attendez, laissez parler M. Morand.
Maintenant, un petit mot sur les déchets. Oui, nous maintenons le chiffre de vos déficits importants, 600 000 euros, d'autant plus important que, je le rappelle encore, contrairement à ce que vous nous avez dit quand vous nous expliquez que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut pas couvrir l'ensemble des coûts, mais bien sûr que si, nous l'avons prouvé à Bolène. La dernière année, nous avons même un excédent de fonctionnement de 16 000 euros. Mais l'année d'avant, on s'en rapprochait chaque année par un travail acharné, tout en investissant. Et ça, les gens peuvent aller tout simplement voir visiter la déchetterie de Bolène, ils verront bien qu'il y a eu des travaux réguliers, qu'elle est en bon état, contrairement à celle de Mondragon, qui, elle, était totalement à l'abandon.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Qu'il faut également, je vous engage à la visiter. Voyez. Vous pouvez comparer.
Monsieur Raffinesque et Monsieur Perron, vous aurez l'occasion de répondre sur la déchetterie après l'intervention de Monsieur Morand. Attendez, s'il vous plaît. Oh là là, je savais que. Bon.
Alors,
il a cité la déchetterie de Mondragon, vous aurez l'occasion de répondre, mais vous
pouvez laisser parler. J'y suis allé. Alors,
attendez, Monsieur Perron, s'il vous plaît.
Les alentours.
S'il vous plaît.
Les alentours des abords des points d'apport volontaires étaient nettoyés par nos services, vous nous dites, et maintenant nous sommes contraints de le faire. Mais pas du tout. On n'a jamais nettoyé ces apports. C'était contractuel. C'était la société, la dernière qu'on a eue, c'est Pizorno, qui avait à la charge de le faire. Alors, vous avez négocié un nouveau contrat. Je veux bien croire que vous avez oublié cette contrainte, mais justement, cela ne fait que prouver votre incompétence. On n'a jamais nettoyé autour de ces PAV, croyez-le bien.
S'il vous plaît, laissez finir, Monsieur Morand. Non, mais si vous.
Alors,
s'il vous plaît, Monsieur Perron, vous parlerez après.
Au sujet de la. Je reviens aussi sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Fatalement, elle va augmenter considérablement, non seulement à cause de votre déficit, mais également aussi à force de vos constructions. Vous nous avez annoncé dans un premier temps qu'il n'y aurait qu'une déchetterie, donc que celle de Bolène allait fermer. Vous avez raconté par la suite que c'était une rumeur, mais nous avons fait une conférence de presse. Oui, vous l'avez dit, et même c'était
s'il
écrit.
Vous plaît, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît.
On l'a trois fois. Alors, maintenant, nous avons donc une déchetterie supplémentaire, alors que celle de Bolène, ce qui n'était pas prévu initialement, va rester. Je vous ai envoyé un courrier en vous disant qu'il n'est pas nécessaire de faire une grande déchetterie à Mondragon, puisque vous conservez celle de Bolène. Et si vous le faites.
S'il vous plaît, laissez finir, monsieur.
Et si vous les faites, quels vont être les taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères? Voici une lettre que j'ai envoyée il y a plus de 6 mois, je n'ai toujours pas de réponse.
Ça n'a absolument aucun lien.
Sur votre dernier magazine, ou alors, sans aucune pudeur, vous expliquez la déchetterie de Bolène ne fermera pas, comme si ce n'était pas vous qui l'aviez annoncé. Vous nous annoncez qu'en plus, la vieille déchetterie de Mondragon eh bien, elle va rester. Donc, on passe de 1 à 3. Alors là encore, combien ça va coûter?
Bon, attendez. Laissez finir.
Alors, la meilleure histoire, c'est celle de ces fameux conteneurs que nous, on payait une location et que vous, rusés comme vous êtes, vous avez décidé d'acheter, ce qui vous a permis d'économiser noir d'euros. Non, en fait, c'était nous qui avions précédemment négocié le rachat de ces conteneurs, et ça s'est fait sur plusieurs années jusqu'à ce que la valeur résiduelle soit nulle, et on arrivait justement en fin d'achat, tout simplement. Vous l'ai expliqué, je l'ai dit, je l'ai prouvé, mais
s'il vous plaît,
faites partie de ces gens, encore une fois, qui mentaient continuellement quand ça vous arrange.
S'il vous plaît, laissez finir. Attendez, monsieur Raffinesque et monsieur Perron, s'il vous plaît.
Alors, les papiers des écoles, je veux dire, ils étaient collectés le mercredi. Voilà. Alors, ce qui vous a fait sourire, vous me dites, c'est quand j'ai parlé de la fiscalité des ménages et des entreprises. Oui, mais quand on signe une ligne budgétaire, on la lit en entier, tout simplement. Il n'y a pas de quoi sourire au mieux. Je sais bien que l'apport des ménages est très faible. Voilà. Alors, les écoles. Il paraît que nous, on ne faisait rien, mais vous avez remplacé une chaudière.
Ah, donc, beaucoup plus.
Mais je peux vous dire que nous, si la chaudière était en panne, on la faisait réparer. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu les enfants aller à l'école en vêtements polaires, moi.
S'il vous plaît.
Alors, voilà. Alors là, vous avez aussi une révélation au sujet du coût des ordures ménagères qui sont, vous savez, enfouies, donc le coût de l'enfouissement. Vous dites actuellement, on paye 88 euros, mais si on était dans un syndicat intercommunal, ce serait au moins 118 euros. Ah bon ? Mais nous nous sommes toujours battus à Bolène pour vous empêcher d'adhérer à un syndicat intercommunal. Et maintenant, voilà, renversement total, vous nous expliquez heureusement que l'on n'est pas dans un syndicat intercommunal.
Attendez, taisez-vous, s'il vous plaît, laissez parler M. Morand, parce que ça devient insupportable.
Alors, la Zande...
M. Raffinesque, s'il vous plaît.
La Zande. Eh bien, écoutez, le bilan de la Zande, je l'ai fait. Hein, j'engage les gens à lire ce qui a été dit. Tout cela est enregistré et consultable. Non, la Zande coûte, elle ne rapporte pas. On aura l'occasion d'en reparler cette année, puisque, soi-disant, vous devez la clôturer. Et je ferai encore la même chose. Je crois que chaque emploi réel nous revient à peu près 10 000 euros sur cette structure. Alors, ouais. J'ai dit que j'étais rapide, je ne veux pas me lancer moi dans une logorée soporifique, j'arrêterai. Bon,
merci Monsieur Morand. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Bompard, Monsieur Raoux. S'il vous plaît, Monsieur Perron.
Juste une précision, vous avez parlé tout à l'heure du cinéma, à 1 200 000 d'euros que vous investissez sur le cinéma. C'est juste pour faire un parallèle avec la salle des fêtes. Vous avez, je crois, 40 places, qui fait 30 000 euros le fauteuil. Au cinéma. Et à la salle des fêtes, avec les 600 places, ça fait 9 500 euros le fauteuil. Voilà le ratio. 30 000 euros le fauteuil du cinéma, 9 500 euros la salle des fêtes.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il vous plaît, Madame Ricard. Attendez, Monsieur Perron, vous avez la parole si vous le voulez, mais...
Je ne sais pas si vous rendez compte l'effet que ça peut faire d'écouter tout ce qui se passe dans une séance comme celle-là, quoi. Sincèrement, je comprends que des citoyens ne prennent pas du tout au sérieux, quoi. Ça devient pagnolesque. C'est un échange entre sourds, quoi. Mais si, parce que ça devient lassant, quoi. Non, c'est pas enrichissant, c'est appauvrissant. Non, justement. Non. Vous avez chacun des chiffres et vous vous battez avec ça comme on se bat, comme des chevaliers se battaient avec des épées. Est-ce que Jean-Louis, est-ce qu'on a une comptabilité analytique? Est-ce qu'on a enfin un logiciel de comptabilité analytique à l'intercommunalité qui nous permet de dire, parce que quand même le sujet central c'est d'une intercommunalité, c'est de faire des économies. Donc est-ce qu'aujourd'hui on est capable de lire sur un papier et non pas d'interpréter suivant ce que l'on entend des compétences, mais de lire des chiffres qui nous disent voilà, à telle date, les communes avaient ça en responsabilité, voilà ce que ça coûtait. Aujourd'hui, la compétence a été transférée, l'intercommunalité a mis d'autres moyens. qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait un progrès? Oui ou non? Parce que dans tout ça, quand même, il nous reste le devoir, non pas de croire, mais d'être sûr. Et parfois de dire on a tort. Plutôt que de dire non, moi je pense ça, vous vous pensez ça, de vous battre pour un territoire, pour avoir le pouvoir. Mais non de sort, c'est une autre histoire quand même, notre histoire commune. Elle va au-delà de cette joute politique de Bolinois entre Bolinois. J'ai dit.
Bien, Madame Ricard, j'entends ce que vous dites. Je veux simplement préciser une chose. D'abord, sur le transfert des compétences. Monsieur Perron, s'il vous plaît, sur le... D'abord, toutes les communes ne possèdent pas une comptabilité analytique parce qu'elles ne sont pas obligées de l'avoir. La loi ne le prévoit pas. Non, mais attendez, on voulait qu'on soit dans du droit et dans de l'analytique, moi je vous dis. Et c'est ce qui fait la difficulté du transfert. Et c'est ce qui fait la difficulté du transfert parce que dans la CLECT, tout le monde dit ce qu'il a dans le pot commun. Personne ne regarde forcément ce que fait l'autre commune parce qu'ils sont là pour défendre leur commune, ce qui est tout à fait normal et louable. Et donc, on se retrouve dans des évaluations qui peuvent être ici ou là erronées. Mais le service doit être identique. Et donc, comme le service doit être identique, mais que l'évaluation des charges est un peu erronée, on se retrouve dans des difficultés qui sont celles que vous pointez du doigt, c'est-à-dire des agents, on en parlait tout à l'heure, qui... Mais je dirais que la règle s'applique à toutes les communes et qu'il faut l'accepter comme telle, et je l'ai acceptée comme telle, mais si vous voulez, il faut à un moment donné que le service soit rendu. Donc, j'entends ce que vous dites, et c'est très compliqué. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur votre avis sur le débat de ce soir, parce que le débat de ce soir, il est extrêmement précis, et vous avez raison, c'est-à-dire que les chiffres, certains en font dire ce qu'ils ne sont pas. Typiquement, attendez, M. Morand qui nous dit combien va être le taux de la taxe d'enlèvement des ordures. Non mais attendez, Cathy, je vais vous répondre, parce que ça c'est forcément intéressant, mais non, parce que lorsque par exemple ils louaient des containers, c'est un budget de fonctionnement. Lorsque j'achète des containers, c'est un budget d'investissement. Et donc la CLEC ne prend pas les charges d'investissement. Et donc vous voyez déjà que le débat il est biaisé, et donc on va économiser 200 000 euros sur 3 ans. Je sais que ça est difficile pour lui, mais la location c'est un support de fonctionnement, tout comme la déchetterie. Il dit de vive voix à combien va être le taux, à combien va-t-on l'élever, le taux d'enlèvement des ordures ménagères, quand on va construire la troisième déchetterie. Mais le taux est assujetti au fonctionnement et la construction d'une déchetterie à l'investissement. On ne prend pas en compte les charges d'investissement. Vous voyez bien que la réalisation de la déchetterie de Bolène n'impactera rien sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Mais c'est, encore une fois, et donc on ne peut pas le laisser dire. Quand il dit « je vous avais interdit d'adhérer au syndicat des ports de Provence », le tarif à la tonne est de 87 euros. Et il le sait très bien parce qu'aujourd'hui, on a bénéficié des mêmes tarifs à quelque chose près, 1 euro de plus hors TGAP, pour faire en sorte de... Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a le préfet qui est en train de travailler sur un syndicat départemental exutoire de l'enfouissement de nos déchets. Il faut qu'on travaille sur les déchets valorisables, parce que ça, je pense que c'est d'abord honorable et éthique au XXIe siècle que de mettre le verre dans le verre. Et je pense qu'on a beaucoup de retard. Mais ensuite... On a pu regarder aujourd'hui ce qui se faisait ailleurs. Typiquement, le syndicat des ports de Provence, s'il veut arriver au prix qu'il faisait aujourd'hui, il va reprendre Vaison-Ventoux. Ça m'intéresse parce que je le suis de très près, parce que je pense que ça va être le coup de bambou dans quelques années quand il va y avoir les charges de déchets à avoir. Eh bien, quand on prend Vaison-Ventoux, on atterrit à 50 000 tonnes par an. Il faudrait arriver à 70 000 tonnes par an pour avoir le même prix que ce qui se faisait auparavant. Donc, c'est un vrai sujet. Parce que quand on va retrouver sur l'exutoire ce tonnage, eh bien on va prendre de 88 à 118. Et donc, il va falloir pouvoir le compenser par le budget ou augmenter, alors là oui, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Parce que pour ce coup-là, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle porte bien son nom. C'est l'enlèvement des ordures ménagères et le transport. Et on sait très bien que dans les déchets, ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas le traitement, c'est le transport. Voilà. Donc je pense qu'il y a des vrais sujets sur ça. Comme le lot 7, aujourd'hui, le lot 7, si vous voulez, il reste un lot sur la Zande. Il y en a un qui avait fait un modèle économique, qui est tombé à l'eau, qui nous a dit « je ne pourrais pas l'acheter ». On a fait aujourd'hui... Non, vous vous confondez avec l'atelier 19. Hein. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on essaie de faire en sorte d'apporter à moindre coût un confort supplémentaire dans le traitement des déchets pour pour ce qu'on est en train de faire. Et vous rappelez-vous que je ne crois pas que la deuxième salle de cinéma, ce soit une salle des fêtes bis, parce que d'abord, elle n'aura pas le même prix, elle n'aura pas le même siège. Et par ailleurs, quand vous comparez des ratios, lorsque la place de parking du 18 juin coûtait 13 000 euros, je ne vous ai pas entendu, M. Raoux, pour 120 places, hurler en disant 13 000 euros, c'est le prix de la place de parking, du parking enterré de Marseille qui est sur la Canebière. Vous voyez ? Non ? Et non, mais non, et c'est la vérité, et vous voyez bien que là, ça vous dérange, voilà. Donc, le débat est clos, je vous remercie, et rendez-vous le 9 avril pour le vote du budget.